18h, 20h, Fou de sport. Avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche. Mais maintenant, il fait de plus en plus nuit. 18h, 20h, Fou de sport, 2h. Consacré à l'actu foot africaine et même européenne, puisque d'ailleurs c'est par cette partie-là que nous allons commencer notre émission. Nous avons un gros focus sur le continent africain où les scandales commencent à sortir de plus en plus, et surtout ce qu'on appelle chez nous la hogara, le mépris envers un continent. Le temps que coach s'en sorte de du bourbier bouchonnage parisien, c'est Sofiane qui lui a trouvé la faille pour arriver le premier. Bonsoir Sofiane.
Salut Mohand et salut aux auditeurs et aux auditrices. Et ouais, effectivement, bah écoute, merci Monsieur Waze.
Oui, oui.
Dans ces moments-là, voilà, ça aide.
Ça t'a servi?
Ah, ça m'a bien servi. Il m'a fait passer par des chemins que je ne connaissais pas, et ça m'a fait éviter les autoroutes qui, à cette heure-ci, apparemment, bah, Nasser en est la preuve, l'illustration, sont blindées.
Bon, alors coach, je sais que tu es en live avec nous.
Et on te salue, coach.
Oh, on te salue, bien sûr. Bonsoir. Donc, on attend ton arrivée pour vraiment disséquer le match Algérie-Burkina Faso, toutes les qualifs africaines, parce qu'il y a du lourd à vous proposer ce soir.
Jusqu'à 20h, Fou de sport sur Beurre FM.
Mais, mon cher Sofiane, enfin, je dirais, bah, puisque maintenant la grande fenêtre FIFA s'est refermée, la prochaine, bah, c'est le tirage au sort le 18 décembre prochain. En attendant, il y aura encore le retour des compétitions européennes de clubs, plus bien entendu la reprise des différents championnats. On va commencer sans plus tarder justement par notre Ligue 1 avant de parler au niveau européen.
Championnat de France, de Ligue 1 et Ligue 2.
Bah, ça a démarré sur les chapeaux de roue, puisqu'il y a eu un premier match, c'était hier.
Vendredi soir.
Vendredi soir, pardon. C'était le Paris Saint-Germain, je crois.
Lille-Monaco, vendredi.
De deux.
Deux partout, exactement. Ouais.
Et ensuite, il y a eu le lendemain PSG qui gagne 3-1 face
contre Nantes. FC Nantes, oui.
Et puis, il y a eu, je crois, la victoire de Rennes, si je me trompe, contre Montpellier.
C'est ça, tu as tout résumé, Mohand. Hein, donc, Rennes qui confirme sa bonne passe actuelle, qui avait battu 4-0 Lyon avant la trêve. Hein. Rappelle-toi, on l'a regardé ensemble le match.
Oh oui,
on avait été très surpris. Et donc, Rennes confirme qu'il prend la deuxième place au bénéfice. On en parlera après. Mais du coup, oui, tu as dit aussi le PSG qui gagne 3-1, qui a été réduit à 10. C'est un match un peu bizarre, avec des buts un peu bizarres aussi. Mais on retiendra quoi dans ce match? Le premier but de Messi,
oui.
En Ligue 1. Et j'ai regardé personnellement l'équipe de Nantes, que je ne connaissais pas, parce que je ne suis pas trop Nantes. Oui. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. Ils perdent au Parc, mais ils font pas un mauvais match. Et ils sont malheureux sur deux des trois buts. Au final, Paris qui conforte sa large avance, qui a gagné tous ses matchs à domicile, et puis qui va jouer contre une finale contre Manchester City dès ce mercredi, je crois, ou ce mardi.
C'est une finale de groupe.
Finale de groupe. En fait, Paris n'est pas encore qualifié, mais ils ont un pied et quatre orteils. City est qualifié. Et ça va se jouer, en fait, pour la première place du groupe, tout simplement. Voilà.
Et du coup, on se retrouve, mine de rien, Sofiane, avec ce championnat qui change un peu.
Oui.
Parce que Moi, je t'avoue que, mis à part le haut du classement, c'est vrai, où Paris est très largement au-dessus après 14 journées, je constate, et c'est la chute brutale, comme l'était d'ailleurs la dernière fois Lyon, quand il a pris 4-0 à Rennes.
Ouais.
Là, c'est Lens qui prend 4-0, mais à Brest.
Et exactement, tu me fais la transition, et c'est ça, j'ai suivi le match cet après-midi. En ne pensant pas que c'était un match intéressant, mais comme il y avait Belkebla qui jouait, et que on en parlera après, mais j'ai des très grosses réserves sur Zerouki après le match du Burkina, je voulais regarder la prestation de Belkebla et donc de Brest
et même de Romain Fèvre
dont j'ai appris qu'il avait des origines et qu'il pouvait postuler à l'équipe nationale.
Monsieur Boulin nous parle de Romain Fèvre depuis un bout de temps. Enfin, personnellement,
c'est ça.
Il m'en parle assez régulièrement de ce garçon
qui est un couteau suisse, un latéral gauche milieu de terrain,
voilà.
Ou latéral droit d'ailleurs, je sais plus. Et donc Brest effectivement qui s'est imposé 4-0 face à Lens. Donc Lens qui était deuxième avant la journée, rétrograde du coup, en attendant encore le match du soir entre Lyon et Marseille, et en voyant aussi ce que va faire Nice, qui pour l'instant est mené contre Clermont. à la mi-temps. Mais ouais, c'était une grosse surprise. Donc j'ai suivi le match. C'était une troisième victoire d'affilée pour Brest, qui confirme son moment, son état de forme, et qui élance, c'est la grosse claque. Alors encore une fois, tu sais, Mohan, c'est toujours bizarre ce match du dimanche 13h,
oui.
où en règle générale, ne vaut mieux pas être favori. Ouais. Dans ce genre de match, parce que c'est souvent la prime aux petites équipes, le match de 13h.
Et ce qui se passe, je ne sais pas si tu l'as remarqué, c'est que quand arrive cette période dite de novembre-décembre, il y a souvent des résultats bizarres. Tu dis, ouais, je vais jouer un favori, mais l'outsider, il vient, il met la tannée, et hop, il passe. Voilà. Il y a beaucoup de matchs comme ça. Et d'ailleurs, si on le remarque, par rapport également au match de cet après-midi, moi, quand je regarde aujourd'hui le classement, mis à part. Rennes pour l'instant qui passe deuxième avec 25 points, c'est vrai que aujourd'hui l'intérêt, je dis bien l'intérêt de la journée d'aujourd'hui réside dans les matchs à venir. Pour l'instant Nice est mené, donc il reste à 23 points, mais si Nice venait à gagner, il repasserait à 26 points, c'est-à-dire il passerait deuxième.
C'est ça.
Et même Marseille, s'il gagne, il passe deuxième aussi.
C'est ça. Et Lyon, qui aussi peut être décroché s'il ne fait pas un résultat positif ce soir.
Et Lyon, par contre, oui, avec 19 points, il est certain que si Lyon ne gagne pas, là, par contre, effectivement, c'est le décrochage.
C'est exactement ça. Alors, tout en sachant, Mohand, que quand tu reprends la journée, tu as Lille aussi qui a fait 2-2 avec Monaco, qui ses équipes-là sont en embuscade. Oui. On a un championnat qui ressemble un peu à ce qu'on avait par le passé, tu sais, quand Lyon était gagné les titres, certains, une équipe qui est largement au-dessus.
Cette année au-dessus.
Voilà.
Cette année
c'est ça.
D'affilée, ouais.
Voilà, on a une équipe qui est largement au-dessus et on a des équipes derrière qui en fait alternent le chaud et le froid. On voyait Rennes au début de saison, était dans les bas-fonds du classement au début de saison. Là, ça repart un petit peu. À un moment donné, c'était la hype niçoise. T'as Marseille à un moment donné aussi qui était là, dont on parlait, Sampaoli, les machins. T'avais Lyon aussi qui a eu son moment. Et en fait, je pense que l'intérêt de ce début de championnat, c'est surtout de ne pas être décroché, parce que les places d'honneur, ça se jouera à février-mars. Donc, en réalité, quand on regarde le classement, aucune équipe n'est vraiment décrochée pour l'instant. Et pour l'instant, à part Paris qui semble s'envoler vers le titre avant le mois de mars, peut-être. Derrière, franchement, c'est très 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 ouvert. Il y a moins d'écart entre le premier. Il y a plus d'écart entre le premier et le deuxième, pardon, qu'entre le deuxième et le douzième, je crois.
C'est ça, oui. Mais ce qui me surprend, même Sofiane, à travers ce classement, moi, quand je l'ai regardé, l'année dernière, Lille était champion.
Oui.
Lille perd Mike Maignan qui part au Milan AC comme gardien titulaire. Aujourd'hui, je regarde Lille 12e, 14 journées. Après 14 journées, 17 points. Et goal average, moins 3. C'est-à-dire que Lille a encaissé 21 buts en 14 journées.
C'est clair. Alors, pourtant, le remplaçant de Maignan, Girbić, qui est en plus de ça international croate, n'est pas mauvais. Et Lille, c'est un peu une énigme, parce que je m'étais fait la réflexion l'autre jour, j'en discutais avec Nasser. J'ai regardé le match de Lille à Séville en Ligue des Champions, et quand j'ai regardé la composition d'équipe, j'avais regardé le match du PSG juste avant, et je trouve que sur le papier, Lille, c'est une très belle équipe, tu vois. C'est vraiment une belle équipe, en tout cas en Ligue 1.
Oui.
Et c'est vrai que c'est bon. Alors est-ce qu'on va mettre ça, parce que la bonne presse t'expliquera que c'est la Ligue des Champions qui pompe de l'énergie. Je sais pas si on peut attribuer à cette théorie.
Il y a l'équipe anglaise, l'équipe espagnole aussi.
Non, mais nous en France, en France, on aime bien trouver des excuses de cet acabit-là. Voilà. Sachant que Lille en Ligue des Champions est bien passé, parce qu'avec la victoire à Séville, du coup, ils sont deuxième de leur groupe et ils sont en passe pourquoi pas de se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais c'est vrai que Lille, c'est un peu une énigme. Hein. Tu as une équipe qui a un bel effectif, bien placé en Ligue des Champions, et qui fait un début de championnat plus que poussif, comme tu as dit, qui prend beaucoup de buts. Là, ils font 2-2 contre Monaco alors qu'ils menaient 2-0 à 11 contre 10. Il me semble que la semaine d'avant, ils perdent à domicile, ou enfin, ils font match nul à domicile contre Angers ou des équipes comme ça.
Ouais.
Donc, ouais, Lille, c'est assez bizarre. En tout cas, en championnat, est-ce que c'est l'entraîneur qui ne sait pas faire avec la qualité d'effectif qu'il a entre les mains? Moi, c'est vrai que Gourvennec, j'étais assez sceptique quand il a été nommé entraîneur de Lille. Mais c'est vrai que, ouais, c'est assez. Qui est champion de France en plus, Lille. Et qui n'a pas perdu. Tu sais, on s'attendait à ce que Lille se fasse dépouiller au mercato, qui n'a pas perdu tant de joueurs que ça. À part leur gardien, effectivement, qui est une grosse perte, mais je trouve qu'ils l'ont relativement bien remplacé. Avec un gardien croate qui est pas mal. C'est assez bizarre ce que fait Lille en ce début de saison. Encore une fois, rapport à la qualité de l'effectif, moi, que je trouve très intéressant.
Et puis, depuis quelques temps, c'est aussi. Un petit bol d'air pour l'AS Saint-Etienne. Ils sont encore dans la zone rouge, attention, hein, ils ne sont pas encore sortis. Et ont gagné aujourd'hui à 3, c'est ça ?
Oui, ça doit être ça.
Voilà, ils gagnent 1-0 à 3, c'est ça. Eh bien, voilà, ils passent avec 12 points. Du coup, c'est vraiment le FC Metz qui décroche là. Avec un carton rouge pour Farid Boulaya.
Ouais, avec un Klöppel qui s'est exprimé cette semaine et qui a expliqué qui avait l'air très serein, qui expliquait que le modèle du club amenait justement à ce que Saint-Etienne n'ait pas de résultats sportifs actuellement.
À court terme,
parce que toujours pareil, le système économique fait que le club s'est endetté pour prendre des joueurs expérimentés, que ces joueurs-là tu peux pas les revendre, donc forcément t'es bien classé, mais au final tu gagnes pas d'argent. Et que là, la logique du club c'était justement de faire avec des jeunes et que donc ça prenait plus. Enfin, il nous a expliqué en gros. Nous a un peu blablaté, quoi, pour nous expliquer la situation du club. Et effectivement, Saint-Etienne, là, qui s'impose à 3. Et Saint-Etienne, ça fait partie de ces anciens grands avec Bordeaux, je mets dans le même catégorie, qui ont beaucoup de mal en ce début de saison. Parce que sur le match de Metz, effectivement, Metz fait match nul, mais Metz a été mené au score 2-0, 3-1. Donc, c'est pas forcément un mauvais résultat.
Ils finissent à 3-3, même à 10.
Voilà. Donc, moi, je pense que ça peut être. C'est vrai qu'en termes comptables, c'est pas terrible. Mais je pense que ça peut être assimilable à une victoire de revenir comme ça dans un match où tu as été mené, et en plus en infériorité numérique.
Parce que là, ce qui va se passer, Sofiane, tu le sais très bien, c'est que nous allons aborder une phase, celle du mois de décembre, où
il fait froid,
dans les effectifs, il y aura des blessés, forcément. Les grands clubs savent se préparer pour le printemps, mais les petits, s'ils n'engrangent pas de points là, ça va être compliqué. Après, est-ce qu'il y aura on va prioriser pour certains le championnat, d'autres la Coupe de France. Quand on va arriver au 32e de finale, là aussi, il y aura un enjeu un peu spécial quand même pour certains clubs de Ligue 1 qui aujourd'hui sont quand même menacés, hein, mine de rien. Même si on reviendra après la pause sur la proposition de Canal carrément de faire rabâcher la Ligue 1 à Sassoula, puisque Sim Saada a été entendu quand même à l'Assemblée nationale dans le cadre d'un projet de la Ligue 1, et revenir à 16, ça veut dire que on parle pour l'année prochaine déjà de 18,
oui.
Lui il veut 16.
16, c'est pour l'élite.
Ouais, pour l'élite.
C'est pour que les 650 millions des droits télé, c'est-à-dire que le prix que lui a estimé pour le championnat de France, soit partagé entre moins de clubs. C'est des débats qui sont intéressants. C'est vrai qu'après une Ligue 1 à 20 clubs, ça fait beaucoup. Mais après 16 clubs, ça veut dire que tu perds potentiellement 4 grosses villes.
C'est ça.
Ouais.
C'est ça, là, Sofiane. Mais pourquoi en Angleterre, tu prends la première ligue et la championship, hein, c'est-à-dire la deuxième division anglaise, je crois que c'est 20 et 22.
Ouais.
On est à 42 clubs. Tous pro.
Dans l'élite. Ouais.
Oui, oui, oui. Mmh. Ça remplit les stades.
Oui, c'est une autre culture. Notre culture, une autre économie du football, un autre développement, on va dire, en Angleterre, le football, c'est une passion. Quoi. On est vraiment dans un modèle très différent. À un moment donné, l'histoire des 18 clubs, c'était aussi pour imiter un peu ce qui se fait en Allemagne, où tu as 18 clubs en Bundesliga.
Oui.
Mais là encore, on est dans un modèle économique qui est très différent.
L'Allemagne, c'est différent.
Ouais, c'est un modèle économique où déjà les associations détiennent la majorité des clubs, à part dans deux exceptions, que sont les Leverkusen, où c'est le groupe Bayer qui a la majorité, et je crois que c'est Stuttgart ou Wolfsburg, un des deux
Wolfsburg, c'est.
Volkswagen,
ouais.
Voilà. Donc c'est un modèle économique qui est différent, avec là aussi les recettes de billetterie qui ont de l'importance, avec l'économie réelle n'est pas déconnectée des recettes des clubs, des budgets des clubs. En Ligue 1, on est sur un modèle économique où c'est les droits télé qui on va dire sont la base du financement des clubs, et c'est un modèle qui peut pas tenir à long terme. Enfin, droits télé, vente de joueurs, c'est pas un modèle, mais ça on en a déjà parlé des dizaines de fois, donc c'est pour ça que je pense que cette proposition peut être intéressante. Mais comme t'as dit, on va perdre des clubs dans l'élite, donc notamment les petits seront pas contents.
Alors, est-ce que la décision a été prise de passer de 20 à 18 la saison prochaine? Parce que pour l'instant, moi, si je regarde en regardant le classement de la Ligue 1, il y a pas de changement. Je vois, d'après le tableau qu'on nous propose souvent, le 19e et le 20e descendent et le 18e fait le barrage. Ça veut dire qu'on restera toujours sur cette base de 20 clubs.
Alors en fait, le truc, c'est que 18 clubs, parce que souvent.
Ou alors c'est pour l'année d'après, à partir de 2023.
Ouais, même après, je pense que ça, c'est des. À la limite, je pense que ça, c'est plus un audit où on lui a demandé lui ce qu'il en pensait. On a consulté pour savoir ce qu'il en pensait, parce que c'est quand même Canal+ qui est le diffuseur et qui met l'argent. Tu vois,
oui,
c'est
oui.
Ils ont leur droit de regard sur le. Alors ça, peut-être que. Les sportifs seront peut-être pas d'accord que les télés donnent leur avis, mais malheureusement, c'est comme ça que, comme c'est eux qui payent.
C'est la télé qui impose, le coach l'a toujours dit, impose son point de vue.
Son calendrier, ouais, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Le truc, c'est que souvent, les dernières années, pourquoi est-ce qu'il y avait cette proposition des 18 clubs? Parce que tu avais souvent deux clubs qui étaient décrochés en bas du classement, où tu avais, tu prends l'année dernière, il me semble que tu avais Nîmes. Et l'autre équipe, je crois que c'était, je sais plus, c'était qui était peut-être Dijon, j'ai un doute.
Oui, il me semble. Ouais.
Qui était complètement décroché. Donc
à mi-championnat.
Donc en fait, t'as toujours deux équipes comme ça qui sont le
bras cassé du championnat.
C'est ça, exactement. Et donc c'était pour ça qu'il y avait cet intérêt de passer à. Déjà, on a mis un barrage pour rendre plus difficile l'accessibilité à la Ligue 1. Et passer à 18, ben ce serait, ouais, c'est parce qu'on s'est rendu compte sur les dernières saisons que t'avais toujours deux équipes en bas qui étaient très décrochées, et donc
rehausser le niveau de la Ligue 2.
Et rehausser le niveau de la Ligue 2, rendre l'accessibilité plus difficile. Tu sais qu'en Championship, parce que tu prenais la comparaison, il y a des play-offs pour passer en Première Ligue. Le champion se qualifie,
pour la montée.
Voilà. En revanche, pour accéder à l'élite, c'est très très compliqué parce que c'est des play-offs qui prennent les 6 premiers, je crois.
Oui.
Quelque chose comme ça, avec des matchs au couteau souvent, dans des stades pleins. C'est un événement, les play-offs. On en est parlé en France.
Voilà. La France n'a pas encore cette culture des play-offs. Allez, on marque une première pause et on se retrouve dans un instant, justement, pour parler de ces différents championnats européens.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM.
On revient sur ce plateau avec Sofiane en attendant, bien entendu.
Le coach.
Alors, le coach, oui, parce que, il est à l'écoute, hein, parce qu'on a pu s'en retenir. Paris est littéralement saturé par la circulation. Donc, évitez Paris Inside. Voilà. Ah oui, tant qu'à faire.
C'est clair.
Donc, mon cher Sofiane, si on regarde cette belle reprise avec notamment l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, ça reprend un peu partout. Et on a vu ce qu'on appelle les machines qui sont déjà bien huilées, qui n'ont pas été rouillées par la trêve FIFA. Je pense notamment à Liverpool, à Chelsea, là, dans le championnat anglais. Où les joueurs ont retrouvé des automatismes, franchement, à couper le souffle, quoi.
Ouais.
Alors, moi, j'ai pris du plaisir sur Arsenal, sur Liverpool-Arsenal.
Ouais, Liverpool-Arsenal ou Liverpool-Ramsdale.
Oui.
Parce que en fait, c'était le seul joueur d'Arsenal qui était présent, c'était Berlin, qui a retardé longtemps les chances, qui a fait un sacré match. Alors c'est toujours rare parce que je crois qu'il est. Alors faudrait vérifier peut-être qu'il est gallois ou écossais, mais un gardien anglais en règle générale, c'est réputé pour pas forcément être de la bonne qualité. Et franchement, le petit Ramsdale, que ça fait 2-3 matchs que je le vois jouer, c'est un super gardien. Mais malheureusement, en face, il tombe face à une équipe de Liverpool qui est un véritable rouleau compresseur, qui a un entraîneur moi que je trouve extraordinaire. Jürgen Klopp. D'ailleurs, t'as vu que ça s'est chauffé sur le terrain avec Arteta à un moment donné.
Oui.
Ils allaient en venir aux mains, les deux. Ouais. Donc, c'est vraiment les coachs qui vivent leur match à fond. Et ouais, Liverpool qui a laissé aucune chance à cette équipe d'Arsenal. Et ouais, comme t'as dit, aujourd'hui, Liverpool s'est fait figure avec Chelsea, qui a joué plutôt dans l'après-midi, qui avait aussi gagné un gros match à Leicester.
Qui est un des top leaders aussi, hein, ouais. De Leicester. Hein, oui. Ouais. 3-0, je crois, c'est ça.
Ils ont gagné 3-0 avec 3 buts refusés par la VAR. En plus,
ouais, ça fait beaucoup là.
Ça fait beaucoup, tu vois. Donc les hors-jeux, mais bon, il y avait hors-jeux à chaque fois. Hein, mais c'est.
Et dire qu'à Paris, on avait la fameuse tribune Footix, hein, qui a critiqué Tuchel. Oui, c'est pas l'entraîneur qu'il faut à Paris. Ben, il vous faut qui alors? Pas regarder. Hein.
Ouais.
Parce que pour l'instant, allez, Paris, vous êtes en Ligue 1. Vous avez une Ligue des Champions pour l'instant. Là, vous allez juste vous battre pour le leadership de votre groupe.
Mm.
Mais on attend la suite après janvier, quoi.
Ah, mais ça, c'est tout le problème du PSG. Le problème du PSG, c'est qu'on sait jamais vraiment qu'est-ce qu'il faut analyser. Est-ce qu'il faut analyser le côté marketing, le côté aura? Et à ce moment-là, il faut reconnaître que Paris, entre 2011 et 2021, donc l'arrivée des Qataris, c'est il y a 10 ans, il faut reconnaître que le PSG a quand même comblé l'écart qu'il y avait avec les grandes d'Europe.
Oui, oui.
C'est-à-dire que quand je parle en termes d'aura, c'est-à-dire que le PSG n'est pas au niveau du Bayern ou du Real, c'est pas ce que je veux dire, mais quand on parle aujourd'hui dans les journaux européens et dans les conversations, on place le PSG à ce niveau-là.
Oui, on en parle.
On en parle. Donc ça veut dire quand même que quelque part, il y a une réussite qatari évidente. Maintenant, si on s'intéresse juste au football et au côté sportif, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire.
Le palmarès, il est vierge, hein, jusqu'à perdre du grandeur.
Il est vierge.
Je parle pas de la Ligue 1. Non, non, ça, ouais.
Voilà.
Excepté la Ligue 1.
C'est ça. Alors, il faut voir, est-ce que les Qataris, eux, ont vraiment envie de gagner cette. Enfin, ont vraiment cette envie de gagner la Coupe d'Europe, ou vraiment leur objectif, eux, c'est juste d'exister, et de qu'on parle d'eux à ce moment-là.
C'est normal, il y a la Coupe du Monde chez eux.
L'année prochaine, voilà.
Dans un an.
C'est ça. À ce moment-là, effectivement, oui, sur le plan. Parce que même quand tu prends sur le plan sportif, aujourd'hui, ça avait donné l'occasion d'une petite, un petit débat avec Nasser, mais je pense que, dans le fond, on n'est pas si loin. Entre le football entre ce qu'avait initié Leonardo quand il arrive en 2011 et le football qui se pratique aujourd'hui, on n'est plus du tout dans les mêmes logiques. En 2011, c'était le Barça qui régnait, c'était le football, un football de possession de balle, un football avec des joueurs comme Verratti qui s'imposaient, des joueurs qui tenaient le ballon. Aujourd'hui, c'est un football, comme tu as dit, le football de Chelsea, le football de Liverpool qui est le football du Bayern, donc c'est trois coachs allemands. Et même le City de Guardiola, c'est un football beaucoup plus direct aujourd'hui qui gagne, beaucoup plus direct, beaucoup plus physique, beaucoup plus athlétique. Ça nous donnera l'occasion d'en parler pour la deuxième heure pour l'équipe d'Algérie. Et aujourd'hui, sportivement parlant, le football est plus dans le PSG est pas dans cette logique-là. Donc je pense qu'il y a un décalage entre ce que veut faire Leonardo, entre son idée de base qui n'est plus en phase avec ce qui est devenu le football sur le plan sportif. Où effectivement on se régale moi personnellement je me régale devant les équipes qui jouent un football beaucoup plus direct de transition
quand, rapide. Quand je vois la vitesse d'exécution des garçons comme Mané, comme Mohamed Salah, Diogo Jota, etc. ça va à 200 à l'heure. C'est-à-dire que, en fait, tu regardes tout en prenant plein les yeux,
exactement,
dis, ça joue et donc du coup tu prends du plaisir à regarder ces matchs là.
Et en plus, quand tu regardes bien, quand tu prends ces équipes là, si tu veux, Salah, Mané, c'est des très très bons joueurs. Mais si tu demandes à l'amateur de football, bon, de loin, quoi, pas des gens comme nous qui suivent un petit peu les matchs, mais je suis persuadé qu'il va te dire que Neymar c'est meilleur que Salah et que Mbappé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a une starification aussi. Et aujourd'hui, t'as plus d'équipes qui viennent comme ça avec des stars. Maintenant, c'est des joueurs comme Salah, Mané qui sont devenus des très très grands joueurs. Pour moi, ça n'a rien à envier à ce qu'il y a à Paris. Hein, qu'on soit très clair. Mais si tu interroges le commun du supporter du PSG, pour lui, ou du supporter français, peut-être qui ne suit pas vraiment le football, Neymar, Mbappé, c'est la starification qui est mise en avant. Et pas vraiment la valeur réelle des joueurs. Comme tu as dit, Salah, Mané, c'est des joueurs que Klopp a ramenés, mais qui n'étaient pas des stars avant, que personne ne connaissait vraiment avant qu'ils arrivent à Liverpool. Et aujourd'hui, ils touchent des niveaux de fou, parce qu'aussi, ils ont ce coach-là. Et cette logique-là de starification. Moi, je pense aussi que, bon, je pense qu'aujourd'hui, elle est plus en phase avec le football.
J'ai l'impression, Sofiane, que pour avoir des stars aussi humbles, il faut un très grand coach. Et Jürgen Klopp a su apporter sa philosophie de vie à celle du club, à l'identité du club qui est Liverpool, quand même, qui est une institution.
Ah, bien sûr. Club mythique.
Et au même temps. Les joueurs ont adhéré à la philosophie club et aussi à la philosophie du coach. Et ça tissé des liens très forts. Et d'ailleurs, tout le monde le reconnaît aujourd'hui que entre Klopp et ses joueurs, c'est quasiment fusionnel.
Exactement. C'est comme tu as très bien dit au début de ton propos, c'est quand tu dis Liverpool. Quand on parle de Liverpool, on pense à quoi? On pense au club de foot, tout de suite.
Oui.
Quand on pense à Manchester, on pense au club de foot, tout de suite. Quand on parle de Paris, on voit d'abord la ville de Paris, et après on pense au club de foot. Et c'est toute la différence entre ces institutions et Paris, qui est un club qui a beaucoup de moyens, mais qui est un club en fait en devenir encore, qui balbutie à peine.
Ouais. Attention, on peut dire que le PSG nouveau existe depuis 10 ans.
C'est ça.
Alors, on ne parle pas, bien sûr, du passé, des années 70, 80, etc., où c'était le club de la capitale, niveau correct.
Bien sûr.
Mais ce n'est pas le très grand comme il est aujourd'hui. Hein,
puisque, c'est ça.
L'arrivée de très gros moyens financiers a changé la donne. Le Qatar voulait aussi une image, et la plus belle image, c'est...
La ville de Paris.
C'est la ville de Paris, c'est-à-dire la Tour Eiffel. Hein.
C'est exactement ça, et pour en revenir à ce que tu disais au début sur Tourelle, c'est pour ça que pour un entraîneur, c'est très très compliqué de coacher cette équipe, parce que malheureusement, les enjeux de Paris, ça dépasse le simple cadre sportif. Il y a le côté, comme tu as dit, marketing, le côté image, et le côté starification, le côté Paris-Ville-Lumière, donc on ramène des stars. Tu vois, le sportif, malheureusement, n'est pas forcément la priorité à Paris. C'est ce qu'avait dit Tourelle dans une interview excellente, où il disait que À Paris, c'est limite de la diplomatie. Alors qu'à Chelsea, tu vois, il a des joueurs à sa main, il a un effectif qui est très bon. Car même Thiago Silva, on le reconnaît plus.
Oui.
Mais ça a toujours été un super défenseur, mais on le reconnaît plus. Tu vois, il a une vraie joie de vivre à Chelsea, quoi. Donc voilà, c'est ceci explique cela. Mais en tout cas, effectivement, bah du coup, dans cette première ligue, à part Manchester United qui a encore perdu, donc l'entraîneur a été limogé.
Oui, oui, Solskjaer, ouais.
Voilà, t'as suivi. Ouais. Liverpool, donc Chelsea fait la course en tête. T'as Liverpool qui est derrière et City qui a gagné cet après-midi dans un match. Alors j'ai regardé le match. Mahrez a pas débuté, il est rentré. Je crois qu'il donne un ballon de une passe décisive
sur le troisième.
Sur le troisième de Bernardo Silva. Mais c'était un match où, tu sais, comme il y a le match de Ligue des Champions cette semaine. Alors, on rappellera aussi que De Bruyne, qui est positif au Covid, était forfait, n'était pas là.
Ah oui.
Et il va rater le match de mercredi. Mais tu sens que le match important, c'est le match de Paris qui arrive cette semaine, parce que c'est encore une fois la bisbille entre Qatari et Emirati.
Eh oui, c'est diplomatique là.
Exactement. C'est diplomatique. Exactement.
Bon, allez, on continue avec cette fois-ci. On reste en France dans cette actu de la semaine.
Fou de sport. La semaine sportive.
Alors, je me suis intéressé, Sofiane, sur tout simplement un petit sujet qui concerne le. Comment je peux appeler ça ? Ce n'est pas en termes de droit, mais en. Je dirais sur cette fameuse répartition club. Parce que quand Canal avait dit qu'il faut réduire, t'as les présidents qui crient haut et fort. Mm-hmm. Et en lisant quelques articles qui m'ont paru un peu bizarre, c'est que on se bat dans le classement en fonction de ton rang. C'est-à-dire que les primes que tu touches, elles sont liées à ton rang. Donc les clubs qui refusent la réduction, eux vont perdre gros. Et ceux qui sont par exemple 17e, ils vont se dire non, il faut que je monte à la 14e ou à la 12e parce que je vais gagner plus. En fait, cette répartition
des
droits télé en escalier, attention, je précise, en escalier par rapport à ta position sur le classement, fait que ça donne du piment jusqu'au bout du championnat. Quoi.
Ah, c'est souvent ce qu'on dit en fin de saison, tu sais, quand il y a des matchs où il y a deux équipes qui sont dans le ventre mou et qui n'ont plus rien à jouer. On dit que.
Oui, ça y est, je laisse aller. Mais non.
Voilà, finir 9e ou 8e, en fait, pour les présidents, ça a un intérêt parce que tu touches plus de droits télé. Alors, je ne sais pas exactement si. Parce que forcément, il y a la. Bon, c'est très vrai pour les petits clubs, ouais. Entre guillemets, ça. Maintenant, des clubs comme Paris, comme Marseille, ou comme. Bon,
oui.
On va dire Paris-Marseille, puisque c'est les deux clubs qui sont les plus diffusés, les plus suivis, donc il y aura toujours de la diffusion. Mais c'est vrai que pour les clubs intermédiaires, plus tu finis haut, plus t'es en fait rétribué en droit télé, donc effectivement.
Et c'est pour ça que ces fameux gros clubs qui sont multi-diffusés estiment que c'est à eux de toucher le plus.
Ouais,
parce qu'ils sont plus exposés.
Bon, exactement. C'était ce que défendait Jean-Michel Aulas feu à l'époque quand il était largement, enfin c'était le quand Lyon était très très fort. Ouais. Il défendait un élitisme au niveau des droits que les premiers, enfin les premiers rôles touchent le plus et puis pour qu'en même temps ça puisse être des acteurs majeurs en Ligue des Champions. Je me rappelle très très bien de ces discours d'Aulas. Bon, le PSG est pas vraiment dans le besoin par rapport à
oui,
ça.
Non, oui.
Mais c'est vrai que des clubs comme Lyon, comme Marseille auraient intérêt à ce que y ait, comment dire, une répartition des droits qui soit à leur avantage.
Et est-ce que tu as compris ce qui s'est passé encore cette semaine avec cette histoire de Juninho qui s'apprête à quitter ses fonctions? Est-ce une démission? Ce qu'on voit aujourd'hui, parce que la polémique est quand même sortie, on voit le niveau de Lyon, etc. Et apparemment, Juni, on a un petit peu ras-le-bol ou trop de pression, je ne sais pas, ça reste encore assez énigmatique.
Ah, je pense qu'il y a un ras-le-bol. Juni, je crois, il est arrivé en 2019. Il arrive en 2019, donc ça va faire sa troisième saison. Donc c'est quand même relativement récent. Maintenant, le truc, c'est que. Comment dire, sur le plan sportif, il y avait déjà eu les problèmes avec Rudy Garcia en interne.
Oui, ça a commencé déjà.
Ouais, et je sais pas si avec le président Aulas, la relation est en beau fixe. Je sais pas, j'ai pas d'infos. Mais c'est l'impression qu'il y en a marre. Il y a un certain ras-le-bol général, parce que quand tu regardes bien sur le plan sportif, c'est lui à la base, il vient avec Silvinho, un entraîneur brésilien. c'est le pays. Enfin, il arrive et tout de suite, première décision, ça a raté. Donc tout de suite, c'était pas la meilleure manière de commencer à Lyon, un club dans qui l'a marqué, hein, Juninho.
Oui, je me souviens.
Dans les années 2000.
En tant que joueur, oui, oui.
Et là, je pense qu'il y a un certain ras-le-bol, peut-être parce qu'on lui ramène pas les joueurs qu'il veut. Je sais pas exactement, mais après, c'est vrai que regarde, même sur le plan sportif, là, Lyon a raté la Ligue des Champions l'année dernière, alors que c'était l'année où il fallait pas la rater, sachant qu'avec l'effectif qu'avait Lyon l'année dernière et le fait que tout simplement c'était, enfin normalement Lyon ne devait pas rater cette Ligue des Champions, donc c'est un échec aussi sur le plan sportif. Et là je pense qu'on est parti aussi, la saison est longue encore, oui. mais je pense qu'ils sentent aussi que sportivement ça peut être compliqué.
Et ce serait quand même dommage quand même qu'il parte aussitôt, alors que il n'est pas entraîneur, il est manager général ou directeur sportif. Ça veut dire que par rapport à cette fonction, il peut encore rester et partir en fin de saison. Par exemple, maintenant on est quasiment à mi-championnat, qualifié en Europa League, etc. Il y a encore beaucoup de matchs. Enfin, un calendrier de décembre qui est assez compliqué quand même pour Lyon.
Alors le souci encore une fois, c'est qu'il faut voir quelles sont les relations que Juninho a en interne avec les dirigeants du club, au premier rang duquel les présidents. Moi, je pense qu'elles sont bonnes, mais peut-être qu'il y a d'autres organes du club avec lesquels Juninho n'est pas en phase déjà. Et le truc, c'est que encore une fois, sportivement parlant. Le problème, c'est que Lyon, qu'on vend comme la deuxième, à juste titre d'ailleurs, comme le deuxième club en France, regarde le classement actuel. Normalement, Lyon, ça devrait être un club qui, effectivement, si tu prends son budget, si tu prends le fait que c'est le seul club français qui possède son stade, notamment, ça doit être un club qui doit être en Ligue des Champions tous les ans et qui doit normalement être un club proche de Paris, oui. Qui doit jouer le titre en tout cas, ou pas très loin. Et tu vois que d'année après année, malheureusement, le constat est le même, c'est que Lyon, regarde, n'a pas fait la Ligue des Champions l'année dernière, ne l'a pas fait cette année, il est en Europa League. Et regarde le PSG qui.
À moins de gagner l'Europa League.
À la C3, ouais.
À la C3.
Ouais, pour l'année prochaine. Mais en tout cas, ils n'y sont pas cette année.
Non.
Et le problème, c'est que quand tu vois que l'année dernière, Lille a été champion, alors que Lille a deux fois moins de budget que Lyon, je pense que ceci, ça met une claque ou quelque part au projet sportif de Lyon, qui a fait la demi-finale du Final 8, rappelle-toi.
On s'en souvient.
Et qui, regarde, en championnat, n'arrive pas finalement à suivre, à être la deuxième place forte du football sur le plan sportif, deuxième indiscutablement derrière Paris. L'année dernière, ça a été Lille qui a été champion de Paris deuxième. L'année d'avant, ça a été Marseille. Bon, le championnat avait été arrêté. Mais on voit que cette équipe de Lyon a du mal à s'imposer depuis que Juninho est là dans cette... Et il avait été amené pour ça, Juninho, pour faire passer Lyon dans une autre dimension. C'est malheureusement, au bout de 3 ans, c'est plutôt un échec. Donc peut-être que ceci explique cela.
Très bien, merci Sofiane. Fin de cette deuxième partie. Pardon. On se retrouve dans un instant pour la troisième et dernière partie de cette première partie dite France, Europe, etc. Et dans cette troisième partie, on va parler, revenir sur les éliminatoires Coupe du Monde, mais sur la zone Europe, CONMEBOL. On va vous expliquer avant d'apporter le volet africain en deuxième heure.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Foot de sport sur Beurre FM.
Troisième et dernière partie de cette première heure, le temps que ça y est, notre coach est enfin arrivé. Il va s'installer tranquillement. Nous allons aborder à travers le monde ces éliminatoires, on va dire, des autres continents avant le continent africain, où il y a tellement de choses à dire avec ce qui s'est passé, ce que nous avons vécu, les manques, etc. et tout. Donc, oui, on est en train de suivre des matchs en live, mon cher Sofiane, je le sais. Nous sommes sur un gros match italien, Inter-Naples. Bon, alors, Sofiane, je reviens justement à ce qui s'est passé cette semaine, encore une fois. D'abord, il s'installe tranquillement. Le coach récupère, comme d'habitude, son casque. N'est-ce pas ? Le micro en face de lui. Allez, voilà, tu peux baisser. Voilà. Il est en train de chercher le niveau.
C'est du direct. C'est du direct.
Nous sommes en direct. Hein. Bonsoir, coach. Attends.
Tu allumes le moteur.
C'est bon.
On va dire bonsoir aux auditrices, auditeurs. On va dire bonsoir, Mohamed. Bonsoir, Sofiane. Quel plaisir de vous entendre.
Merci, coach.
Hein, quel plaisir. Ouais. Je me fais passer 45 minutes dans l'embouteillage. Ils sont bien passés en plus.
C'est affreux, hein.
Oh là 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 là. On va rien dire.
Bon. Alors, coach, ce que j'ai dit à Sofiane, bon, on a fait la première partie.
Bien entendu.
On arrive à ces fameuses éliminatoires. Et puis, je te remercie notamment pour cette vidéo de l'entraîneur ivoirien Patrice Baumel.
Magnifique.
En fait, ce sont tous les sujets que nous avons abordés ici ensemble.
Tout à fait. On dirait qu'il...
On a l'impression, Nasser.
Mais c'est sûr.
Que nous avons fait passer un message.
Bien sûr.
Sur Beurre FM, depuis des années, je me rappelle, on se battait aussi avec Feu Jacques Roux sur la reconnaissance du continent africain. Et quand il a sorti la phrase CONMEBOL, CONMEBOL, c'est l'Amérique du Sud.
Ouais.
Il y a 10 nations. Elles font un championnat.
Ouais.
Et on a 5 qui partent au bout du monde.
Exactement.
Ah.
Et Morane, notre ami, là, de nous écouter.
Oui.
C'était bien, j'aurais bien voulu. C'est dommage qu'on peut le faire écouter, lui écouter le commentaire du.
Franchement, le commentaire
coach, ouais.
Du coach ivoirien. Ouais.
Bien sûr, c'est des news de bon sens. C'est que du bon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autant l'Afrique à une période, il disait, ouais, il n'y a rien, c'est l'Europe, c'est l'UEFA, la FIFA, l'argent vient de là. Mais aujourd'hui, on sait que l'argent vient de l'Afrique. Bon, bref, pour X raisons.
Oui.
Et aujourd'hui, t'es pas reconnu encore parce que t'as encore des gens qui, sûrement dans les instances, qui sont pas clairs avec la FIFA et qui acceptent comme ça cette espèce de domination qui n'a pas de nom. Parce qu'aujourd'hui, dans cette fameuse mondialisation, il n'est pas autorisé ou dans une obligation de mettre 18 clubs ou 20 clubs européens et 5 africains au nom de quoi ? Au nom de quelle raison ? Parce qu'il faut bien qu'il y ait une raison.
Mais regarde comment la CONMEBOL s'est imposée, Nasser. Ah ouais. Ok, nous sommes 10 pays, on va se créer un championnat. C'est-à-dire 18 journées.
Ouais.
C'est un mini-championnat.
Ouais.
C'est donc 18 journées de matchs éliminatoires.
C'est ça.
Et à la fin, bon, on fait un championnat par match aller-retour, les points, etc. Nous, on a 53 ou 54, je crois, depuis l'avènement du Sud-Soudan. Je crois que nous sommes passés à 54 fédérations. À la fin, il y a 5 qui vont aller aux Coupes du Monde. Et attention, déjà, il y a des équipes qui sont éliminées avant.
Bien sûr.
Je pense à l'Afrique du Sud, l'histoire Bénin-RDC sur laquelle on va revenir, le scandale de l'arbitrage des matchs Ghana-Afrique du Sud. Ah oui, non, mais là, ça vous cloue.
C'est passé quoi, j'ai pas vu.
Ah, t'as pas vu le pénalty qu'a obtenu le gars-là ?
Imaginaire.
Il y a à peine faute.
Il y a pas faute, non, le gars il est tombé.
Bah,
il voit l'arbitre, qu'est-ce qu'il fait ? Il recule en arrière, l'arbitre désigne pénalty.
Bah, tout à l'heure, Sterling a eu la même faute et l'arbitre a été voir la VAR, il a annulé le pénalty.
Bien sûr.
Ouais.
Parce que pendant les éliminatoires, il n'y a pas la VAR.
Ouais.
Et du coup, et l'Afrique du Sud a porté.
On pose pas la question.
Et l'Afrique du Sud a porté plainte auprès de la FIFA. Ouais. On attend bien entendu la décision.
Il n'y aura rien du tout.
Ouais.
Voilà. Rien.
Tu peux rien faire.
L'arbitre est souverain. Ouais. Il est souverain dans tout. Il faut vraiment qu'il y ait une faute d'arbitrage. Là, il va dire, moi, j'ai jugé qu'il y a pénalty. C'est tout. Ouais. Il n'y a pas la VAR. S'il y a la VAR, rien dit non, on ne peut pas.
Encore même.
C'est vrai que la VAR les embête, les arbitres, parce qu'il y a des vérités qui sortent et qui sont dans une obligation.
Mmh.
Ils se sentent dans l'obligation, je veux dire. Mais là, eux, aujourd'hui, ils te disent, voilà, on fait tout ça, mais en Afrique, il n'y en a pas. Surtout pas la VAR. Là-bas, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de caméra, il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Comme d'habitude. Ça, tu as vu même le match d'Algérie.
On va parler de deuxième heure, Nasser.
T'inquiète,
on a aiguisé les couteaux.
Voilà, voilà. On s'est préparé pour la fête de l'Aïd.
Voilà.
Ouais, c'est ce qu'on a bien dit, on l'a dit il y a longtemps. Hein.
Ouais. Alors, justement, on a vu ça, Nasser. Tous les sujets que nous, on a abordés depuis des années, on les expose. Et aujourd'hui, à mon avis, bien sûr, c'est arrivé aux oreilles de pas mal de responsables. C'est-à-dire que, regarde là, on arrive, et puis, la plupart des joueurs aujourd'hui en Europe viennent du continent africain. S'il n'y avait pas l'Afrique, il n'y aurait pas. Mais, mes amis, s'il n'y avait pas les Africains, il n'y aurait plus de championnat. Il y aurait un peu partout. Surtout dans des pays comme la France, même de plus en plus en Belgique, aux Pays-Bas, aujourd'hui, même dans les pays dits conservateurs, il y a de plus en plus d'Africains.
Mm-hmm.
À un moment, on s'est posé cette question, Nasser, tu t'en rappelles très bien, on a dit que c'était un scandale, que l'Afrique est sous-représentée, et il y a de grands joueurs qui ne vont pas faire cette Coupe du Monde, notamment ce fameux match Cameroun-Côte d'Ivoire. Oui, et que derrière, ensuite, il y aura un enchaînement avec 5 grosses équipes africaines où la plupart de ces joueurs-là évoluent en Europe. Quand tu prends sur les 10 qui restent pour le barrage du mois de mars, la majorité des joueurs de ces équipes, la CER, jouent en Europe. Et ça veut dire qu'il y aura beaucoup de beaucoup de bons joueurs qui ne vont pas partir.
Mmh. Oui, ouais, bien sûr. Non, mais de toute façon, quand tu
la frustration, quoi.
Quand tu regardes la composition même des équipes soi-disant, les équipes résidentes, on va les appeler résidents, bah, tu vas voir que c'est qu'il n'y a pas de hasard et que le football africain est dans tous ces états, si ce n'est que pour que ça arrive à eux et qu'on puisse les reconnaître légitimement sur ce qu'ils sont. J'ai toujours l'histoire de Morat quand il dit que, ouais, mais vu le niveau africain, et quand tu écoutes Baumel hier, t'as vu, il t'explique ce que c'est qu'une Coupe du Monde et les éliminatoires, comment c'est compliqué, c'est très, très, très difficile, bien sûr. Et que, voilà, après, je te dis, on est toujours dans la reconnaissance de ce que tu es. Si tu alimentes, l'Afrique alimente les équipes européennes plus les équipes africaines, c'est déjà pas mal. Hein. Déjà, la reconnaissance, ça commencerait là, déjà. Mais bon, on est peut-être sur un cheminement. Moi, je dirais simplement, il faudrait peut-être que les grands joueurs qui sont les binationaux aussi, comme Zidane, comme beaucoup, qui parlent un peu, quoi, qui viennent nous chever un peu de tous ces gens-là. La Coupe du Monde, elle est à combien, là?
Elle va passer de 32 à 48.
Voilà. Ouais. Alors, sur 16 clubs, ils t'en rajoutent 4 à toi.
C'est ça.
Ouais.
9, c'est ça. C'est pas un scandale, ça.
9.
Et quand tu vois en Europe qu'ils ont encore un tour, ils font des tours de poule et en plus ils ont encore un tour. Au cas où tu fais une erreur, on va te redonner une chance pour que tu te qualifies. Et j'ai hâte de voir les tirages de cette poule là, moi.
C'est la remarque exactement ce qu'a dit Belmadi en conférence de presse avant le match du Burkina.
Ouais.
On lui a dit, est-ce que vous craignez pas un scénario à la portugaise? On en parlera après.
Ah oui.
Ou le Portugal. Mais il dit Belmadi, il fait, mais je vous ferai remarquer que le Portugal c'est différent. C'est-à-dire que le Portugal a perdu. Donc en fait, le barrage pour eux, c'est une seconde chance, ouais, quelque part. Alors que nous, si on perd, c'est mort, c'est cuit. Oui. Le barrage, en fait, c'était pas encore en Coupe du Monde en plus. Donc c'est tout à fait ça. L'Europe, c'est 10 plus 3.
Ouais, ouais, mais bon, on le sait, de toute façon, c'est clair. Mais après, il faut que les... Comme on est dans cette fameuse mondialisation, après, il faut que les personnes influentes... imposent leur discours et imposent leur état de fait, hein, surtout des garçons comme Zidane, comme Eto'o, il y en a beaucoup.
Je pense que ces grandes stars qui ont fait le bonheur du football européen doivent aujourd'hui s'exprimer.
Bien sûr.
Zidane, Drogba, Eto'o, ils doivent monter au créneau pour crier au scandale.
Bien sûr. Pour dire que ça suffit. Mais bon, après, c'est toujours une histoire de... C'est toujours une histoire d'argent, c'est toujours l'histoire de ce problème-là, c'est qui amène quoi, c'est qui amène là, et savoir que les grands sponsors qui sont derrière, ils ont besoin de vendre sur des pays européens, parce qu'eux, ils vendent là-dessus. En Afrique, c'est pas encore ça, mais le jour qu'en Afrique, ça va être ça. Bon, on aura des vrais magasins Nike, des vrais magasins, merde, Adidas et tout, pour pas faire de la pub. Eh ben, tu verras que ça va changer d'état d'âme. Hein. Les mouches vont changer d'âme tout de suite. Hein. Ah, mais aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, tu peux pas... Tu peux pas expliquer l'inexplicable en 2021 que tu es encore à 5 comme il y a 20 ans, il y a 25 ans, 30 ans.
Ouais, mais Nasser, le problème aujourd'hui, c'est que à travers ces quotas, bon, on vous donne une mince part du gâteau. Tu sais, hein, c'est comme un gâteau d'anniversaire. Allez, on vous donne, comme l'a dit Patrice Baumel, nous ne représentons même pas 10%.
Ouais,
c'est ça, des poussières. Des équipes qualifiées, et pourtant en nombre de joueurs on est bien supérieur puisque l'Afrique produit plus et propose plus de joueurs. Bah, écoutez, prenez toutes les divisions aujourd'hui en France, qu'elles soient la Ligue 2 nationale, etc., toutes les nations qui connaissent bien le football amateur,
bien sûr.
Regardez la compo d'équipe et puis, puis donnez-moi la réponse,
c'est ça. Mais ils le savent.
Mais bien sûr qu'ils le savent. Non.
Aujourd'hui, c'est comme, on va dire, on va pas faire des comparatifs, mais c'est un anerkbala, c'est-à-dire avec ton avis ou sans ton avis.
Ouais.
C'est comme ça. Aujourd'hui, on te dit, aujourd'hui tu le savais avant de t'en parler, personne n'en parlait. Aujourd'hui, si tu veux le savoir, eh ben, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Mais il n'y a pas moyen de changer. Non, on ne change rien du tout. Les règles, on ne les change pas. On en est là. Donc si tu veux faire intervenir, il faut intervenir. Ou tu dis aux joueurs d'aller faire grève, les mecs ils boostent un petit peu ça, ou tu demandes aux grandes stars qui font les fameuses plateaux, où tu vois les plateaux radio, télé qui part, ça serait des sujets de mettre sur le tapis, mais ils ne les mettront jamais, ça ne les intéresse pas, ça.
Ben oui.
Au contraire.
Ils veulent pas. Ils s'en veulent pas.
Voilà, dans la configuration de 2026, les 10 équipes qui sont en barrage là, t'aurais quasiment le contingent des qualifiés là.
C'est ça.
Une équipe près.
Ah oui, c'est ça.
Voilà.
C'est ça.
Non, moi je dis, c'est comme ils font deux poules, deux championnats, ou à la limite, tu fais deux poules championnats, tu fais l'Afrique d'en haut, l'Afrique d'en bas, et tu fais un championnat, aller-retour, et voilà, et tu prends les trois premiers qualifiés, ça fait six, voilà, au moins, t'as une équité. Tu joues pas comme l'Algérie a joué le match du Burkina, où tu manques d'exploser. Tu fais un parcours de fou, et t'arrives sur un match directement, et là, tu vas arriver sur deux autres matchs qui vont être terribles. Terribles.
Mais Nasser, c'est ce que disait Patrice Pommel, dans ce commentaire qui était intéressant, il disait, attention, lorsque vous finissez les éliminatoires africains, vous finissez rincé, épuisé.
Ah bah bien sûr, ça c'est
clair. Vous rajoutez les barrages, vous arrivez en Coupe du Monde, votre cerveau, il est éclaté.
C'est ça. Bah oui, bien sûr. Monsieur. Ouais. C'est bien qu'ils le disent. Hein. C'est bien qu'ils le disent.
Nous, ça nous ravit, parce que ça fait des années que nous défendons cette idée, enfin. Elle commence à être reconnue. Ça nous fait plaisir. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que là, en deuxième heure, on va revenir sur les éliminatoires africains. Le grand chelem pour le Maroc de Vahid Ali Lodzik, 6 matchs, 6 victoires, avec Mami qui a marqué 5 buts sur 2 rencontres. Phénoménal buteur qu'a trouvé Vahid. Il joue, je crois, du côté de Ferencváros Budapest en Hongrie. Et puis, nous aussi, on attend aussi notre fameux Messi devant, parce que devant, ça crie. Et puis, alors là, derrière, ça s'arrête.
18h, 20h, Fou de Sport, avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette deuxième heure de Fou de Sport, dont le titre majeur s'appelle ou s'intitule Les dossiers de Fou de Sport.
Les dossiers de Fou de Sport.
Bon, si on revient aux éliminatoires de Coupe du Monde, principalement c'est par rapport au match de l'Algérie face au Burkina. Bon, on a vu le Maroc qui a fait la fiche complet, grand chelem, rien à dire, bravo coach Vahid, avec un superbe trouvaille, ce fameux buteur qui vient de Hongrie, Ferencváros Budapest, Mami, 5 buts en 2 matchs, c'est quand même assez exceptionnel. Bravo à lui, puis bravo au Maroc qui est qualifié aussi. L'Algérie s'est qualifiée dans la douleur, et justement, on arrive à ce fameux match. Bien entendu, on attendra vos appels du côté du standard. Je sais que je prendrai en premier Malik, parce que il est là depuis le début de l'émission. Mon cher coach, on a tous vu une équipe un peu, allez, comment je dirais, allez, qui danse sur un pied, quoi. Ça a été limite
bancal.
On a eu peur, oui. Oui, bancal, c'est vraiment ch'tard. C'était très compliqué. À un moment donné, je me suis dit, il serait capable de nous mettre ce troisième, tellement que derrière, on voit Aïssa Mandi manque de rythme, parce qu'il ne joue pas avec Villarreal. Jamal Belhamri, bon, il joue au Qatar, on voit bien le rythme du Qatar. Bounja Kif, on voit bien que le rythme du Qatar. Alors, mes chers amis footix, vous dites que il va venir au Barça, mais je pense que vous vivez un rêve. Ça fait beaucoup pour une équipe qui est à majorité de joueurs issus du Moyen-Orient, qui d'ailleurs qui vont repartir de plus belle pour faire le Chan avec Brahimi en plus. Mais bon, ça fait pas une équipe compétitive au niveau africain, où la plupart des Africains, eux, viennent d'Europe, ils ne viennent pas du Moyen-Orient.
Nasser.
À toi l'honneur.
Prochain sans Jack.
Oui, mais moi je sais pas si tu as la mémoire courte, mais ce que j'ai dit, je l'ai prévu depuis, ça fait quoi, un mois et demi, j'arrête pas de parler de ça.
Tout à fait.
J'arrêtais pas de dire match du Mali, j'arrêtais pas de dire que j'ai pas arrêté de mettre le feu en disant que ça va être compliqué. J'avais dit que s'il n'y avait pas eu le public, on passait pas. Ça, c'est entre moi et Sofiane.
Avec 5 titulaires en moins.
Ouais, c'est en plus. Le problème de l'équipe d'Algérie, c'est qu'il y a plusieurs paramètres à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent plus depuis longtemps, comme toutes les équipes qui sont depuis 2 ans qui fraudent, qui sont au sommet de du football africain, voire européen, parce qu'on a pu jouer des équipes dans différents pays. Le problème, c'est que comme toutes ces équipes-là, après un moment, tu te gargarises, mais le fait de gagner des matchs quand tu joues des petites équipes et qu'on te balance l'histoire des matchs Non perdu, pas match nul.
Oui, non perdu. Non perdu. On a changé de vocabulaire. Voilà. Oui, oui, oui.
Alors, je l'ai vu Bidoun Hazima. Je l'ai vu écrit partout, ça.
Oh, non.
Et avec ça, on a vendu du vent. Et moi, je pense sincèrement que la prestation de certains joueurs à des postes clés, je connais très bien l'Afrique, je connais très bien le problème du football algérien, je sais très bien où il est le vrai problème, on le retrouve encore là, c'est l'axe défensif, c'est que ce soit les deux stoppers ou que ce soit le 6, les 2-6 qu'il y a devant. Si tu n'as pas Adlen au top de sa forme comme il l'a été en Coupe d'Afrique, et ben il te pulvérise tout le monde. Et il répond lui dans le combat physique, et les autres jouent. Tu l'as pas. Le garçon qui le remplace là, pour moi, à aucun moment il répondait aux critères africains, parce que c'est l'Afrique, c'est pas la Hollande, ni Brest, ni Lyon, ni rien. Tu n'as pas le format de ce joueur-là, donc tu es mort. Mais tu es mort tous les jours. C'est simplement le fait que on a eu la chance d'avoir peut-être un Belaïli un petit peu plus intéressant à ce poste-là, où il a été décisif sur deux passes. Mais même Mahrez, qu'on a vu Riyad, après, t'as vu, il est sur des combats africains, sur des matchs à élimination directe, et puis t'es plus dans le même monde. Et connaissant le football africain, les vrais joueurs là que t'as vu là, ben ils te bousillent. Mais ils te bousillent le milieu. Sofiane, j'arrêtais pas de lui dire, tu vas voir ce qui va se passer. Ben rien, zéro qui, il a été surpris de zéro qui. Je dis, moi, depuis deux mois, depuis qu'on me le vend, je le regarde, je fais non, c'est pas le profil du football africain. Impossible qu'il puisse. Ouais. Le problème, c'est qu'on se projette sur le football européen, on le regarde comme ça, on le voit faire des petites choses là, et mais qu'est-ce que. Mais les gars, c'est pas ça, l'Afrique. Mais c'est pas ça.
Mais si tu prends le cas zéro qui, il est passé entre les gouttes sur beaucoup de matchs, voilà. Parce qu'on n'a jamais été vraiment mis en difficulté.
Ouais.
Là, dans le match contre le Burkina Faso, c'était éclatant, c'était flagrant. Tu disais que de toute façon notre jeu c'était quoi ? On sautait le milieu de terrain à chaque fois. Parce qu'au milieu de terrain on s'est fait complètement broyer par l'équipe du.
Ouais, parce que Bennacer a couru pour deux personnes. Hein.
Et Bennacer il a fait son match. Bennacer c'est une satisfaction, il n'y a pas de problème. Ouais. Si on parle des satisfactions là, certes, t'as Bennacer qui est dedans, t'as Bennacer qui a fait son match. T'as vu le match ?
Belaïli aussi, ouais.
Voilà, Belaïli, bon, bref, voilà. Mais milieu de terrain, dans le match contre le Burkina Faso, clairement en plus de ça.
C'est des choses, c'est des paramètres qui sont des paramètres constants. C'est-à-dire qu'on le sait, on le voit. J'arrêtais pas de crier depuis le Mali. Je vous dis, vous avez pas vu la première mi-temps du Mali ou quoi, les gars? Personne ne regarde le match. Vous regardez pas les contenus. Vous croyez que vous allez vendre des merguez à tout le monde, quoi? En faisant croire que tu gagnes les matchs là, tu gagnes Niger, tu gagnes là, et tu rappelles pas que, on va jouer une équipe qui nous a bousillé là. N'oublie pas qu'ils auraient pu gagner chez eux. Tu vois, deux fois, ils sont dans le coup pour te bousiller. Après, on te vend en disant oui, mais non, tu vois, ça passe. Ça passe là, parce que déjà, la météo a joué pour nous. Ouais. Et deux, leurs cinq meilleurs joueurs ne sont pas là. Ils ont disparu, ils sont blessés. Et s'ils sont là, leur attaquant, s'il est là, c'est le Traoré, tu vas voir que c'est plus la même donne. Alors aujourd'hui, on a gagné, on va dire oui, mais ce qui va se passer dans les deux prochains matchs.
On a fait match nul, hein. On n'a pas gagné. Sur la double confrontation, deux nuls. Hein.
C'est ça. Ouais. Voilà.
Et si on est dans une optique de match aller-retour, c'est le Burkina qui serait passé. Ouais. Parce que 2-2-1,
oui,
faut le rappeler, ça, quand même.
C'est ça.
Ouais.
C'est ça. Et après, c'est pas le scandale, mais tu le dis. Hein. Après, j'ai envie de dire. Il y a Jamel ou au staff, aux gens qui sont là-bas, mais vous voyez vraiment la réalité de ce qui se passe. Vous avez vécu une Coupe d'Afrique, mais top niveau, avec des joueurs qu'on soutient à la maison. Belhamri nous a impressionnés, mais on dit qu'il a été incroyable. Besmani, il a fait des trucs de fou. L'autre même, le mec qui était à droite, il a fait.
Atal,
mais ils étaient blessés après.
Zéphane
qui a fait le match.
Qui a fait le boulot quand il est rentré.
Ouais. Et je dis, monsieur, mais vous n'avez pas compris comment vous avez gagné là ? C'est-à-dire que tu inventes. Et ça, j'ai entendu dans le discours, même dans le journal de la presse, mais l'Algérie fait du jeu. Mais si tu fais du jeu, t'es mort. Mais t'es mort. T'as pas les outils pour faire le. Tu me parles pas, ça se dit pas. Mais tu peux pas faire le jeu. Mais il faut répondre. Dans le domaine physique, il faut y répondre. Et tes joueurs, ils ont été pliés en 8. Je me demande comment, en plus, qu'ils ont. Bref. Heureusement, ils ont pas mené au score, eux.
Arrête, après, dans le. T'as Mboli qui fait un ou deux arrêts.
Bien sûr.
Ah oui. Voilà. Un gardien, ça sert à ça.
Voilà, il a sauvé.
Dans les moments difficiles, il t'a sauvé la barre.
C'est ça. Et bon, rien à faire, t'as employé des litanies de si. Je peux te dire que si Bounjah il met le 2-0, la balle l'immanquable.
Oui.
J'ai pas dit si, moi.
Ah non.
J'ai dit ce que j'ai vu.
Si t'as vu les 5 joueurs et
tout. Oui, ouais. Non, non, bien sûr. Après, j'ai dit simplement pour montrer que s'ils étaient vraiment complets, eux, comme nous, on l'était.
C'est vrai, c'est
si un match de position, là, tu vas voir le match que. On dit c'est pas qu'ils vont gagner. On dit qu'on est sur un autre match encore. Mmh. On est sur autre chose. Mais le match, le contenu, c'est celui-là qu'on regarde. C'est pas les plaisanteries de.
Alors moi, ça, moi, j'ai juste une question par rapport à ça. Ouais, j'aimerais ton avis de coach.
Non, non, je veux pas.
Non, ton avis d'observateur. Voilà. Toi, quand tu vois la première mi-temps que fait Bounjah, où il rate deux occasions immanquables. Il y a le premier, bon, Mahrez est au deuxième poteau, il marque.
Ouais.
Et sur la deuxième, Mahrez doit finir et il décale en retrait et Bounjah rate.
Alors qu'il aurait dû. Voilà.
C'est fait de jeu, ça. Ouais,
c'est fait de jeu. Mais l'entraîneur le sort à la mi-temps.
Ouais.
Est-ce que quelque part, il ne le tue pas à ce moment-là?
Non, mais on s'en fout de ça.
Non, mais c'est une question que.
Non,
que...
mais on s'en fout. On s'en fout.
Attends,
je t'explique pour que tu comprennes. Je vais aller au bout de ta question parce que tu l'as donné, je vais te la couper pour te dire.
Ouais.
On s'en fout parce que Djara, il a compris qu'il a pété. Il est dans le jeu, il n'y est pas. Il pète un jour pour remettre un 10.
Alors, Nasser.
Pour mettre un récupérateur derrière. Il met un 10 derrière, mais il fait Gouli derrière.
Je suis d'accord avec toi, Nasser.
Il laisse un attaquant. C'est à deux attaquants, ça passe pas.
Je suis d'accord avec toi, Nasser.
Stop, c'est tout.
Non, mais attends, d'accord. Déjà que t'es en bisbille avec Delors. Si tu perds Bounjah, il te reste qui en l'œuf?
Bah oui.
Il te reste que Slimani. On va.
Tu en trouves un autre.
On va prier pour que Slimani se blesse pas alors.
Ouais, mais bien sûr, il y a ça aussi. Mais c'est pas que ça. Le problème, c'est après, c'est sur l'animation tactique. Il met un 4-4-2. Il pense qu'avec les deux, comme il a fait lors de précédent match, il avait mis la même chose et ça avait fonctionné.
Djibouti, ouais.
Et là, ça n'a pas fonctionné parce qu'il a pensé qu'avec deux pointes, il allait les accaparer là-haut et ça n'a pas fonctionné parce que Bounjah, il n'a pas été trop là. Même son premier but, il rate son plat de pied là. Bon, bref.
C'est ça, ouais.
Et après, sur les deux, il juste que Slimani est plus compétitif là. Il le sort, il met Feghouli. Feghouli travaille au mitard. Hein. Il travaille au milieu parce qu'il a compris que le milieu était bon, après pris le bouillon.
Belmadi sait que Sofiane de Feghouli ne tient pas. 90 minutes.
Non, non, c'est pas ça.
Non,
c'est non,
ça
non, non.
Et sur une mi-temps, il est capable
non,
de.
Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Le rendement, il est pas là-dessus. Il fait un choix tactique quand il met deux axos, il met 0 kilo, il pense qu'il va tenir le ballon et qu'il va faire le jeu.
C'est ça.
Il fait rien du tout, il tient pas le jeu du tout. Et les Burkinabés, eux, ils ont décidé d'aller sur les combats, ils ont mis les longs ballons, ils ont mis la guerre là-bas. Et je te dis, on a de la chance d'avoir marqué, nous, à des moments.
Oui.
Voilà. Où ça aurait pu être plus chaud pour nous si eux, ils marquent. Et là, on a eu la chance que le scénario a tourné un petit peu en nous. Parce que même à 2-2, quand j'ai vu le pénalty.
Oui.
2-2, j'y suis.
Il reste du temps en plus derrière eux, bien sûr.
Oui, il reste du temps, oui, quand même.
Après, le match, il s'est un petit peu pourri. Le ballon n'est jamais remonté jusqu'en haut. Mais le problème, il est là. Et ce qu'on dit là, c'est pas de le dire. C'est que le problème, c'est que tu auras une finale et tu verras si tu tombes le Cameroun ou si tu tombes le Ghana.
Mali.
Et tu vas voir s'ils vont pas exploiter ça.
Le Mali.
Ouais, mais. Oh. Hein, tu vas voir. Mais c'est que dire ce qu'on a vu, hein. C'est pas dire autre chose. Et après, les gens voient, regardent le résultat. Oui, on a gagné. Oui, t'as battu Niger, Djibouti, t'as battu là. Ouais. Mais quand c'est Burkina, t'as fait un match, un vrai match contre le Mali. Faut pas oublier qu'ils avaient marqué deux buts qui ont été refusés pour un truc pipeau. Mais bon, ça nous a peut-être fait du bien à ce moment-là de comprendre que c'était. Et ça, c'est passé en dessous les ténoirs. Et ça, personne n'a relaté ça.
Parce qu'on ne veut pas admettre. La réalité, quand on essaie d'apporter une analyse, on dit vous êtes contre, etc. Et tout. Non, nous on s'est aperçu que effectivement il y a des défaillances à des postes clés. Aujourd'hui, tu le vois bien par exemple au poste de gardien mais au poste de latéral droit. D'après Christophe Galtier, Attal est en train de revenir, donc la blessure est moins grave que ce qui est prévu. Mais il n'empêche que ce qui va se passer là, dans le courant de ce mois de décembre, Nasser, tu sais bien que maintenant, il y aura la fameuse CAN arabe dans laquelle tous les joueurs qui jouent au Moyen-Orient vont jouer et ils vont faire la CAN au mois de janvier au Cameroun. Moi, je n'y comprends rien. C'est-à-dire que là, les Bounjah, les Belamri, Belayli, tout ça, ils vont jouer. La CAN arabe.
La Coupe arabe, oui.
Voilà, la Coupe arabe. Et bien sûr, là-dedans, on a rappelé, il me semble, Yassine Brahimi.
Ouais.
Il y a même, je crois, Sofiane Hani. Je n'ai pas regardé. Voilà, on a rappelé tous les joueurs algériens, on va dire, qui sont au Moyen-Orient.
Qui sont dans la péninsule, oui.
Voilà. Mmh. Et la majorité de ces joueurs, tu vas les retrouver à la CAN. Le problème, c'est que, voilà, ils ont un rythme, mais ce n'est pas un rythme soutenu.
Oui, mais c'est la démultiplication des compétitions qui se met en place.
Et il te faut un réservoir de joueurs.
Ah oui. Mais c'est un peu aussi ça que je dis que si on veut aller très loin dans l'analyse, quand tu es au niveau où tu es là, tu prévois ou tu préserves ou tu fais attention ou tu dis garçon comme Boulaya, j'ai pas vu jouer, garçon comme comment il s'appelle, garçon qui était au Dynamo de Kiev là.
Non, Sofiane Hani.
Sofiane Hani, qui n'a pas joué. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas été utilisés. Pour des raisons obscures, on va dire. Je ne sais pas, oui, parce que. En plus, il a pris rouge, Boulaya, aujourd'hui.
Ouais. Oui, oui, il a pris rouge aujourd'hui.
Et voilà, tu as des garçons qui ont une capacité A, et on opte sur d'autres joueurs, mais ça, tu peux pas le cacher tout le temps. Tu peux pas cacher, les joueurs. On voit. Moi, je suis dans le milieu depuis 40 ans, je regarde, et je vois quand même, quand une équipe est là, je vois les joueurs qu'il y a là. Et je pose des questions. Si je dois être un peu plus concret dans mon analyse, il y a des choses qui ne sont pas claires. C'est pas clair. Ce qui se passe là dans l'équipe d'Algérie, c'est pas clair. Brahimi, il est où ?
Il est en A prime.
Brahimi ?
Oui.
Comment ça, A prime ?
Ben, il a été convoqué par Majid Bougara pour l'équipe A prime.
C'est pas un truc de fou, ça. Bref.
Mais
tes valeurs sûres de ton football, comment Brahimi, un garçon de ce talent-là, qui ne joue pas. Tout le monde me parle de Belaïli, oui, je vois, il est là. Mais bon, demande aux Qataris, c'est qui le meilleur joueur du Qatar.
Oui.
Ils vont t'annoncer c'est qui eux. Donc après, tu es là-dessus, tu dis, écoute, on fait quoi, quand on joue là, est-ce qu'on veut aller en Coupe du Monde, on ne veut pas y aller, on veut y aller. Il faut un minimum de retenue et un minimum de vérité. Quand j'ai vu qu'il avait mis cette Coupe d'Afrique là, j'ai dit bien joué. Les joueurs qu'il y avait sur le truc, j'ai dit enfin Adlène, il met là, on poste là. Ce qu'on avait compris depuis longtemps, nous, et qu'on annonçait depuis longtemps, pourquoi je sais pas, il joue, il le met au poste. Ok, c'est super, ça roule. Après, tu peux faire un tour de magicien aux gens qui sont sur le terrain, puisqu'on connaît, bien l'Afrique. On connaît les matchs, on connaît la dureté des matchs. C'est pas simple, l'Afrique. Il te l'a dit, l'autre, Mike Powell. Là. De Côte d'Ivoire, il te l'a dit. Là. Oui, mais c'était tellement d'une vérité qui est insignifiante. Pour d'autres, qui pour moi est éclatante. C'est exactement ça. Et tu penses que tu vas... Regarde le joueur, regarde le monstre. C'est ça, regarde. Quand tu joues africain, ben voilà.
Je sais pas si.
T'as des frigos à roulettes qui font 2 mètres.
Eh oui,
mais pour les choper, tu peux comme tu veux. C'est ça le football de l'Afrique.
Comme t'as dit Nasser, quand t'avais suivi le match Cameroun-Côte d'Ivoire, ouais. C'était pas forcément un grand sommet sur le plan technique, mais alors les coups que ça s'envoyait, ouais. Les pains que ça s'envoyait. Et effectivement, Nasser, je suis pas sûr que nous, on a les joueurs pour faire face aux défis physiques. Par exemple, si on joue le Cameroun, ça risque d'être compliqué.
C'est ça. Ouais. Mais qui a commencé à gagner les matchs ? Pour aller plus loin, qui a commencé à gagner les matchs ? C'est les garçons de banlieue, ouais. Qui étaient de Paris, ouais. Qui ont été en Afrique, et eux, ils n'ont pas eu peur. Ouais. Vaïd l'avait dit, ils avaient été chez en Guinée, ils avaient gagné là-bas.
Ouais.
Il dit que voilà, les joueurs sont là. Mais quand tu regardais la composition d'équipe, Majid Bougara, il y avait Antar, il y avait Karim, les mecs, ils ont été progressistes, ils n'ont pas rien. Mais quand tu prends les joueurs locaux, les joueurs du Blaise là-bas, ils ne jouent pas en Afrique, ils lâchent parce qu'ils savent qu'ils vont se faire défoncer. Plus, la chaleur, le truc, ils n'en veulent pas du tout ça.
C'est ce que nous avons vécu. Très bien, on va se marquer une première pause dans cette émission. On se retrouve dans un instant. Le débat risque d'être encore très chaud parce qu'il va falloir trouver des solutions.
Foot de sport. Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Foot de sport sur Beurre FM. Beurre FM.
Bon, avant de commencer à prendre les auditeurs du côté de Standard, je voudrais, Nasser, que l'on revienne sur ce qui nous a ce qui nous manque aujourd'hui. Soyons clairs et nets, il ne faut pas se voiler la face. On n'a pas su se renouveler après le titre africain de 2019. Comme tu l'as dit, on se contente de petites équipes pour dire qu'on est toujours invaincu. Et du coup,
j'ai pas dit des petites équipes.
Non.
J'ai dit simplement on gagne des matchs. Il faudrait jouer des équipes beaucoup plus sérieuses.
Oui.
Pour quand tu arrives dans des matchs comme ça, tu te retrouves.
Pour être compétitif.
Voilà, c'est ça, bien sûr.
Non, mais bon.
Mais ça,
un terme inapproprié, c'est pas grave. Mais le constat, il est là aujourd'hui. Mmh. Regarde, Aïssa Mandi, qui était notre meilleur défenseur central.
Il a changé de club, c'est bon.
Villarreal.
À Villarreal, il joue plus. Voilà. Donc, il est en manque de temps. Ben Amri, on a bien vu qu'il est à court de rythme.
C'est
flagrant, sur le péno, concédé. Bon, à droite, on n'a toujours pas récupéré Youssef Attal, qui est plus un latéral offensif qu'un vrai défenseur, il faut savoir. Bon, donc là, et le fameux joueur devant la défense, puisqu'Adlène Guedioura
S'il joue en 4-4-2 à plat ou en losange, mais sinon il peut jouer en 3-5-2, hein. Ça t'intéresse pas, il a le couloir, il est là-bas dans le couloir. Hein.
Ouais, c'est ça, ouais.
Il peut jouer à 3 actions, tout le monde le fait aujourd'hui. C'est plus la mode, parce qu'à moi en Algérie, ils ont dit, il y a Cavalli qui l'avait fait, ils lui ont dit que c'était. Il a joué à 5, c'est un truc de fou, et tout le monde le fait maintenant aujourd'hui.
Ouais, tout le monde le fait,
Et du coup, la Nasser, c'est un constat, ça veut dire que là, on a un problème ici. Après, devant, t'as toujours des solutions. Mais le problème, c'est, tu l'as toujours dit, il faut assurer ses arrières. Aujourd'hui, les arrières ne sont pas assurées.
Ah, mais complètement.
C'est on se fait bouffer au milieu. Ah, ouais. Tu retrouves Ismaël Benasser qui court pour deux. Ça, c'est pas normal déjà.
C'est pas qu'il a couru pour deux, Benasser. C'est qu'il a fait le match qu'il faisait, parce que dans son rôle, dans son style, c'est un peu ce qu'il fait habituellement. Ouais. Le problème, c'est, je parle des impacts, moi, dans les ballons longs, dans les rapports sur les joueurs, physique, ou la dureté, pour que dans le milieu de terrain, dans le rôle central, tu t'imposes. Mais là, nous, on n'a jamais vu le ballon. Hein. Je sais pas comment on a fonctionné, mais on n'a jamais vu le ballon. Hein. Et là, quand tu fais ça, tu te dis, comment on fait là? Comment tu fais pour gagner le match? Comment tu vas faire? Parce que ça, on l'a pas vu, on n'a pas l'habitude de le voir. Maintenant, aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'état d'alarme? Non, c'est simplement, faut réfléchir, mais vraiment, sur sa composante de l'équipe, les fondamentaux de son équipe, sur quoi elle fonctionnait. Est-ce qu'on est capable de le renouveler ou on est capable de mettre autre chose? En sachant que le match va être mars, on est novembre.
Il y a la CAN avant.
La CAN peut être un élément.
Oui, c'est ça.
Ça peut être un truc. Mais bon, sur ce que j'ai vu sur les joueurs qui ont été choisis, j'ai pas vu. En plus, il y a des joueurs locaux qui viennent. Moi, je viens contre les joueurs locaux, au contraire. Mais vu le niveau que je vois aujourd'hui des joueurs locaux, j'ai du mal à penser qu'il y a des garçons qui puissent être là-dessus. Après, on vit sur le dos de Mahrez. Tu me dis ce que tu veux. Si tu enlèves Mahrez, Burkina Faso, il fait un bond de 100 mètres en haut. Ouais. Tant qu'il est là, tant qu'il joue, il impressionne, il fait reculer tout le monde. Et c'est bon. Mais moi, l'alarme, je l'ai mis, il n'y a pas d'aujourd'hui.
C'est le Mali.
Je continue à le dire. Je dis, voilà, vous n'avez pas vu. Vous allez voir ce que vous allez voir. C'est pas fini encore. Bah. J'ai dit, si on tombe le Mali, tu vas voir un peu ce que c'est.
Moi, j'ai deux remarques. La première, c'est que quand on parle de cette série d'invincibilité, faut pas oublier que l'équipe d'Italie qui a gagné l'Euro avait une série d'invincibilité qui est montée jusqu'à 35 matchs, je crois. Bon, ils ont perdu en Ligue des Nations. Mmh. Mais regarde, l'équipe d'Italie qu'on nous vendait, la série d'invincibilité, c'est fantastique, la Squadra Azzurra est revenue, etc. Ouais, ils vont peut-être pas aller au Mondial. Voilà. À quoi t'aura servi ta série d'invincibilité si tu te fais taper en barrage? À quoi ça t'aura servi, franchement? Et j'ai vu les matchs de l'équipe d'Italie. Alors, c'est mignon, mais contre la Suisse, ça gagne pas. Contre la Bulgarie, ça gagne pas. Et là, ils ont été en Irlande du Nord, ils ont pas gagné. Ils font que des matchs nuls. La Suisse, qui s'est qualifiée, a fini premier de son coup, a gagné 4-0. Qui a éliminé l'équipe de France, d'ailleurs, l'équipe de Suisse qu'on nous vendait ici comme étant petits Suisses. Bah, ils vont au Mondial.
C'est les grands Suisses, là.
C'est premier point.
C'est l'horlogerie de précision.
C'est clair.
Voilà,
et deuxième point, c'est que ce que tu dis, Nasser, bon, je suis pas expert technique comme toi, tu l'es, parce que toi, t'es coach, donc toi, t'as vraiment l'expérience du terrain. Moi, c'est plus un observateur. Effectivement, le milieu de terrain, aujourd'hui, dans le football moderne, c'est la salle des machines. C'est là que tout se passe. C'est vraiment la salle des machines. Et voilà, la Coupe d'Afrique, comme tu as dit, on avait un milieu de terrain que moi, je trouvais effectivement bien huilé. C'est-à-dire que tu avais trois profils complémentaires. Guedjura qui était vraiment l'essuie-glace qui tapait tout. Tu avais Benasser qui était au-dessus. Tu sentais qu'il jouait libéré parce qu'il avait derrière Guedjura qui était la caution défensive. Et tu avais un mec comme Fegouli qui, dans ce milieu de terrain-là, bon, comme c'est Mahrez qui faisait le jeu, bon, qui cavalait un petit peu, bon, qui mettait ses buts. Mais on voyait la cohérence. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a depuis quelque temps, t'as Jamel Belmadi, bon, c'est pas pour le critiquer d'ailleurs, mais bon, on dit ce qui est, qui a intronisé Zerouki dans ce poste de
6,
de Régista, donc de 6.
Oui.
Et moi, je vois pas en fait l'utilité de ce joueur dans le jeu, dans ces confrontations contre pays africains, parce que là, encore une fois, dans ces éliminatoires, on a mis 10-0 à toutes les équipes, mais la seule équipe du groupe qui était un peu compliquée, on a fait deux matchs, on n'a pas gagné. Et encore une fois, configuration match aller-retour, on est éliminé, parce que 2-2-1, but à l'extérieur, c'est le Burkina qui serait passé.
Heureusement que là, c'est le goal average général qui est choisi, et non le goal average particulier.
Puis on avait plus de points en plus, mais
ce que je veux dire, cette histoire de deux points, effectivement.
C'est ça. Et moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on a ce match qui va arriver en mars, avec la CAN avant, bon, là, quel axe de progression quand on sait que le Burkina Faso, ce n'était qu'un prélude, que potentiellement on peut jouer l'équipe du Mali qui, je te rappelle, la CAN nous a fait mal en amical. On peut jouer l'équipe du Cameroun. Moi, quand je vois les Golgoths qui sont au milieu de terrain, t'as Zambou Anguissa qui joue à Canap, qui est un des meilleurs milieux de terrain d'Europe actuellement. Moi, j'ai vu le match contre la Côte d'Ivoire, ça peut nous faire très mal aussi. Une équipe du Ghana qu'il faudra pas sous-estimer. Moi, j'ai franchement, moi, Nasser, j'ai très peur qu'on nous ait vendu du vent jusqu'à, parce qu'on peut continuer la série d'invincibilité jusqu'au match éliminatoire. De match, tu peux te faire éliminer aussi, tu vois. Donc, moi, personnellement, je suis très, très, très inquiet à la vue de ce match. On n'a pas existé au milieu de terrain et j'ai l'impression que Zerouki, c'est le fils de Belmadi, quoi. Il veut pas le bouger. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des solutions. Il y a Boudaoui qui est à Nice, donc il y a un peu un profil offensif, mais t'as aussi Belkebla qui joue à Brest. Alors, c'est un petit club, Brest. Mais Brest, c'est la Ligue 1, il a joué en Ligue 2. C'est des championnats où il y a quand même du combat. C'est le succursale de l'Afrique, la Ligue 1, quand même. Ça renvoie des pains.
Ah, c'est une belle expression.
Bah oui.
Succursale de l'Afrique.
Bah oui, non, mais ça renvoie des taquets. Donc, moi, moi, j'ai l'impression qu'il y a des solutions que Jamel veut pas se donner les moyens de les mettre en œuvre. Je sais pas.
Bah, tout à chacun a ses vérités.
Voilà.
C'est son réalisme, hein. Il ne va pas, aujourd'hui, à 2-3 mois d'un match, changer tous les plans. Le problème, c'est qu'il y a des choses à remettre vraiment en place, hein, en cause. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les joueurs qui ne jouent pas, il faut vraiment qu'ils jouent. Parce que s'ils ne jouent pas, c'est une catastrophe. On le voit. Hein. La deuxième, c'est que tu as des choix de joueurs, tu ne les fais pas. Après, ce n'est pas obligatoirement sur le plan offensif, c'est sur le plan de... Tu peux pas jouer toujours avec la même équipe et les mêmes joueurs. Tu vois, à un moment, c'est toujours avec la même équipe et les mêmes joueurs, en gros. Le problème, c'est que sur les postes clés de ton équipe, t'as pas d'interchangeabilité du tout. Mmh. Sur le poste d'Adlène, pour moi, c'était une priorité. Je connaissais bien ce poste-là, parce que j'ai eu le même coup avec moi quand j'étais en Coupe d'Afrique, plusieurs fois même, plusieurs Coupes d'Afrique. C'était ça, c'est le problème, il était là-dessus. C'est le maintien de ça. Et tu verras que beaucoup d'équipes, beaucoup de... Le faux problème, c'est comme le Maroc et la Tunisie. Je reviens à ça, parce que tout le monde dit, ouais, t'as vu, ils font un bon parcours. Ouais, mais parce que le Maroc et la Tunisie n'ont pas joué les vrais Jbeb d'Afrique.
Oui, c'est vrai.
Qui ont joué des petits là qui étaient là, qui ont fait, ils ont battu la Guinée là-bas. Ouais, mais la Guinée, c'est des petits joueurs, ça joue, c'est tranquille, c'est pas représentatif réellement de l'Afrique. Mais tu vas jouer le Cameroun, tu vas jouer la Côte d'Ivoire, ou tu vas jouer même l'Afrique du Sud, tu vois les impacts de jeu. C'est un peu comme on l'a vu hier. Vous avez vu Nouvelle-Zélande en France?
Oui.
C'est un match magnifique.
Oui.
Est-ce que tu as vu les.
Exceptionnel.
Tu as vu les impacts de jeu? Ben, c'est ça le football. Devant la défense, c'est exactement ce que tu vois là. Si tu plies un peu, c'est ce qui est passé. Comme nous, on a plié d'entrée, et on a plié pendant une heure et demie. Après, tu me dis, le changement, il a été là. Après, je dis qu'il a. Je fais Gouli. Après, Uki qui est rentré après.
T'as fait Gouli qui est rentré.
Ouais, bah, c'est
sûr. Il a fait rentrer Benrahma.
Ouais.
À un moment donné.
Ouais.
Il a. Qu'est-ce qu'il a fait rentrer d'autre? Moi, c'est les deux changements que j'ai en tête. Hein.
Ouais.
Je crois qu'à la fin, il a dû faire rentrer Adam Zorgan, je crois.
Ouais.
À la toute fin du match.
Mm-hmm.
Non, il a fait rentrer deux défenseurs pour ne pas encaisser de but. Hein. Donc, j'ai regardé les entrants en fin de match sur Gann. C'était vraiment pour sécuriser.
Après, il va te dire, oui, on n'a pas de deuxième profil comme Adlène. Il faut regarder un petit peu. Hein, tous les petits pays. On a parlé d'un joueur qui est sorti de Budapest, je ne sais pas d'où, qui marque 5 buts.
Oui.
Bah, tu ne peux pas trouver un 6 en Algérien qui joue dans le monde entier, qui peut
être
dans ce poste-là.
Belkebla, c'est mort, non?
Ah, c'est pareil que.
T'es pas raté.
Ça va péter.
Parce que c'est quand même un profil plus défensif que.
Peut-être, ouais, mais c'est fragile. C'est fragile.
Ah, parce que vous rappelez que Belkebla, il a pas fait la CAN parce qu'il y avait eu cette histoire avec Boukidja. Peut-être que moi, je sais pas s'il y a une rancœur avec le joueur, j'en sais rien, tu vois, mais c'est vrai qu'il a vraiment pas vraiment eu sa chance, quoi.
Non, mais Poutine, il y est, mais bon, après, sur les impacts, moi, je parle sur les
matchs. Ouais, sur lui,
tu peux pas jouer, tu peux pas combattre un mec qui a 90 et qui fait 90 kilos, mais avec un 68.
Faut rappeler Adlène.
Ben normalement, il est prévu pour ça, je sais pas, parce qu'il a rejoué, il a signé dans un club.
Oui.
Mais
est-ce qu'il rejoue? C'est surtout ça.
J'ai vu plusieurs fois qu'il était remplaçant, il rentrait et tout, il faisait les matchs.
D'accord.
Mais même s'il joue pas.
Ils sont prêts
quand t'es sur une finale, comme ça, africaine, t'en as rien à faire aujourd'hui. C'est-à-dire que tu prends n'importe qui est sûr qu'il va t'apporter quelque chose. Il n'en a pas. Et comme la reconnaissance des nouveaux talents, il n'y en a pas eu chez nous.
C'est vrai.
À part Belahma, un peu.
Un peu, ouais.
Mais on a Boulaya qui est depuis.
Qui n'a pas eu sa chance. Oui.
Voilà, Boulaya qu'on n'arrête pas de dire et qu'on ne me rentre pas, qu'on fait. Même contre le Niger, il n'est pas rentré. Contre le Djibouti.
Ouais, donc là, il y a un problème.
Il y a des bouts de match, là, tu sais. Après, il y a les coulisses, il y a ce qui se passe à l'intérieur qu'on connaît.
Il y a pas, aussi l'histoire de Delors aujourd'hui. Dans ces matchs-là,
t'as perdu une cartouche, là.
Oui.
Ouais, sur le plan offensif. Mais bon, le plan offensif, moi, je m'inquiète pas trop. On a ce qu'il faut pour aller marquer. On a la dynamique pour aller remonter le ballon là-haut et d'aller chercher le but.
Les Ademounas, tout ça, c'est vrai.
Mais quand tu bats le Sénégal 1-0, deux fois tu les bats 1-0 et tu bats le match de notre défense, Ah, tu te dis, c'est plus la même. Match, ouais. C'est plus la même.
Ah, c'est plus la même défense. Là,
là aujourd'hui, c'est plus là. C'est le jeu, il est là.
Bon, très bien. Justement, on va prendre les premiers appels du côté de Standard. Il est le standard est plein à craquer. Alors, je vous demande juste de patienter dans l'ordre. Et puis, je vous prends au fur et à mesure. Il n'y a aucun souci. Allez, on y va. Et il est là depuis plus d'une heure. Donc, je suis obligé de le prendre en premier. C'est Malik. Bonsoir, Malik.
Bonjour, Mohamed.
Bonjour, Malik.
Bonjour ma soeur.
Sahar Malik.
Sofiane.
Sahar Malik.
Sofiane, toi, tu es bien. Tu dis tout, la vérité. Voilà. Bon, un grand bonjour à Nawad de l'autre côté. Ouais. Voilà. Bon, Mohamed, j'ai vu le match.
Oui,
j'ai
vu, oui.
Deuxième temps. Mmh. Et tout ça. On n'a pas des grands joueurs. On n'a rien du tout. Parce que, ils ramènent des joueurs qui sont en Tunisie. Ils jouent à Katablamina, c'est pas la peine. Voilà. Pour moi, ce qu'il a dit, Nasser, il faut jeter tous les joueurs de migration ici. Oublie, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de niveau de local. Rien. Zéro. Voilà. Mais là, il faut qu'il enlève. Voilà. Bon, il y a un peu. Même Benaïd, il y a du même. Il peut, peut-être un peu à Dilawim. Badra, Zaya, Odia Hamia et tout ça, avec comment s'appelle Slimani, il n'a pas donné en fin, il a commencé à dégrader à la fin. Pourquoi il n'a pas fait rentrer des Blounes à moi là? Il y a Boulaya sur le pont. Voilà.
On a parlé de Fred Boulaya, on parle de Fred Boulaya.
J'ai vu le match, oui, qu'une façon, c'est des grands joueurs.
Ah,
c'est
t'as
des,
vu, hein?
Ils sont à 2 mètres, c'est des grands vedettes.
Ah, c'est une bonne équipe.
Si on tombe avec les Cameroun, ils vont nous bouffer. Rappelez-vous des paroles, je te dis la première fois, deuxième fois. Ouais. C'est pas des gâteaux.
Ah, bah de toute façon, Malik, le Cameroun à Malik, le Cameroun, oui. C'est notre bête noire. Si on tombe
dessus,
on ne passe pas.
Hein. Non, jamais la gagné le Cameroun.
Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai.
Jamais.
On passera pas.
Ouais. Même le Mali, on a gagné avec maintenant les joueurs maliens. Il m'a dit, mon gars, il est rentré de son de Tavéni Saint-Ouen. Il m'a dit, mon gars, attention les Maliens. C'est tous des joueurs qui sont ici, ils vont jouer avec nous.
Oui, oui.
Voilà. Les Algériens, leur bouche ici à son de Tavéni Saint-Ouen. Là, s'arrêtez vos conneries, vous n'êtes pas des grands joueurs. Voilà. Plus, Mohamed, faut qu'il appelle, il n'a pas le choix. Maintenant, il faut qu'il appelle de renfort.
Maintenant, les renforts à Malik, on a besoin derrière.
Attends, t'as Kim Zodak de Clermont-Ferrand, t'as Yanis Kremlech de Provence, t'as Portugal, t'as comment ça s'appelle le frère de Kim Zodak, Karim Zodak,
oui.
Il y a 21 ans, je ne sais pas. S'il joue le milieu, là, il joue défenseur, je ne connais pas ce joueur. Il joue à Chalon avec Zorcap. T'as déjà un autre joueur, il joue à Montaïa en Bulgarie, il est utilisé par des Sochaux, il a 23 ans, c'est un défenseur. Voilà! On a Mohamed de chez tu vas te jeter du plus.
Ben oui, c'est vrai, Malik, tu as raison.
Attends, excusez-moi. Ouais. Il y a un joueur le milieu qui joue à Royal Stade espagnol. T'as Entnouri. Pourquoi Entnouri? Il a choisi l'Algérie. Pourquoi il n'appelle pas?
Ben c'est vrai, ouais, on l'a oublié, ce garçon.
Oui, oui, Entnouri, et tout ça. Entnouri, la Russie, de Tolva.
Ouais.
La Sénat, c'est au milieu. La Milan aussi. Est-ce que la Sénat, il a joué l'équipe de France, l'équipe d'Algérie?
Bah écoute, moi je sais qu'il y a des joueurs aujourd'hui qui ont été oubliés. Bon, alors, on sait pas pourquoi.
Ah ben, est-ce qu'il y a un sénateur qui a joué l'équipe de France ou l'équipe d'Algérie?
Ah, je sais pas. Franchement, je t'avoue que je n'ai pas suivi ça.
Il faut qu'il appelle Belmadi. Là, je pense que Belmadi commence à décraquer là, quelques des Sofiane. Parce qu'il n'a fait pas rentrer Boulayam, Dablouines, Moala et tout ça. Voilà. Il y a un peu de faute de lui. Il ne faut pas amener trop de joueurs là qui jouent à Qatar ou Tunisie, tout ça. Ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas de niveau. Je dis là, les joueurs de local, il faut qu'ils sortent et vont dans les pays d'Europe de l'Est. Ça apporte beaucoup de choses.
Ah,
ils
n'ont
pas de niveau. Il faut des joueurs de migration. S'ils n'ont pas de joueurs de migration, ça ne marche pas la machine. Il n'y a rien qui marche. On n'en forme pas des joueurs. On n'a rien du tout. C'est ça que je suis énervé. Je fais appel à tous les Algériens, monde entier. Et tout ça, on n'a pas de joueurs. On n'a pas de centre de formation en Algérie. Les Marocains, ils fonctionnent. Parce qu'ils ont des centres de formation au Maroc. Ils fonctionnent. La Tunisie, ils fonctionnent. Nous, on n'a rien du tout. Même les Juifs, c'est mieux que nous. Voilà. Ils arrêtent leur connerie. Et là, ils ne vont pas leur bouche.
Voilà, Malik. Rien du tout. Voilà, merci Malik.
Mon coup de gueule.
Voilà, merci Malik.
Voilà.
Au revoir. Voilà, donc, alors, Malik, on a fini. Je prends, j'ai, alors, la pause pub, elle est courte. J'ai encore d'autres appels écoutés de son art. Vous restez en ligne, hein, surtout, ne raccrochez pas. On se retrouve dans un instant.
Fou de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Fou de sport sur Beurre FM.
Oh, ça vous fait tous peur. Je comprends votre frustration. Allez, on repart du côté du standard. Allô, bonsoir. Allô.
Allô.
Oui, bonsoir, bienvenue.
Oui, salam alaykoum, c'est l'arbitre.
C'est l'arbitre, tu nous appelles d'où l'arbitre?
De Valenciennes.
De Valenciennes, on t'écoute l'arbitre.
Salut, voilà, l'arbitre. J'espère que vous allez bien, Nasser.
Très bien.
Ben oui, avec, on est heureux.
Voilà. Bah écoutez, bon, moi je voulais revenir sur le match du Burkina Faso, comme vous êtes en train de débattre là-dessus.
Ouais.
Moi je vais vous donner mon point de vue et ma façon de voir les choses. Maintenant, et je voudrais savoir aussi si j'ai raison ou pas sur ce que je vais vous dire.
D'accord, on y
par
va.
Par rapport au Burkina Faso, le Burkina Faso, ils étaient obligés de venir gagner chez nous.
Oui.
On est d'accord.
Ouais.
Moi je me demande pourquoi, pour moi, Belmadi, il a fait une erreur sur le coaching, pourquoi jouer avec deux avant-centres?
Ouais.
Quel est l'intérêt? Tu sais que le Burkina Faso va venir avec des intentions
offensive.
De gagner et de faire le jeu. Moi, personnellement, j'aurais été Belmadi et j'aurais joué avec la même composante que je joue d'habitude, avec un seul avant-centre. J'aurais mis Slimani devant à la place de Bounjaf, parce que Bounjaf, en ce moment, il est
pas en confiance. Ouais.
En équipe nationale,
c'est pas ça. C'est vrai.
C'est pas ça. Voilà. Maintenant. Pour revenir à la charnière défensive, Ben Amri, Mandi, on voit qu'ils sont en manque de temps de jeu les deux.
Oui, c'est flagrant. Oui.
On le voit très bien. Mandi ne joue pas dans son club, il n'y a pas encore joué aussi ce week-end, c'est problématique.
Oui.
Il y a un joueur qui s'appelle Ahmed Touba qui fait de très bons matchs avec son club. Pourquoi Ben Mandi ne le fait pas jouer?
Ouais. Bah, le problème, il est là, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de joueurs dans la sélection, l'arbitre, tu as raison, beaucoup de joueurs qui n'ont pas de temps de jeu suffisant pour affronter le niveau international. Et c'est vrai qu'on a vu les carences à travers ce match. Hein, c'est
clair. Hein. Voilà. Et je voudrais rajouter aussi une chose, excusez-moi. Zeloki, alors, Jamel Belmadi est bien gentil, mais je respecte le travail qu'il fait, mais sur ce match-là, c'est pas possible.
Ouais, clairement.
C'est pas possible. Voilà, il est passé complètement à côté. Et le fait de jouer avec deux attaquants, 2-6, l'équipe, elle était coupée en deux. Il n'y avait plus de milieu de terrain, il n'y avait plus rien.
Ça
passait facilement dans l'axe. Et vous avez qu'à remarquer, si vous avez bien regardé le match, la serve, le Burkina Faso, il attaquait toujours à deux, voire trois joueurs.
Oui, parce que c'était vide au milieu. Oui. On voyait des boulevards, c'est vrai.
Il était coupé en deux. Ouais. Et moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'un joueur comme Sofiane Feghouli, quand en sélection, il fait de très bons matchs, il se bat, c'est un guerrier pour moi. C'est l'un des meilleurs joueurs aussi qui mouille aussi beaucoup le maillot. Et pourquoi il le met en place en CD? Alors peut-être qu'il était peut-être fatigué lors du match de Djibouti, je peux comprendre. Mais quand il est rentré, on a vu tout de suite, ça passe, ça touche au milieu de terrain.
Oui. En plus, c'est un garçon qui a l'expérience, qui est opportuniste devant le but. Dans les moments difficiles, c'est un garçon qui trouve, c'est vrai. Écoute, tu sais, on s'est tous posé ces questions. On a des joueurs aujourd'hui qui sont en manque de temps, ça c'est une évidence. Après, il y a, comme je l'ai expliqué en début d'émission, il y a cette Coupe arabe qui arrive où la plupart des joueurs qui jouent au Moyen-Orient vont avoir un peu plus de temps de jeu dans cette compétition arabe. Mais juste après, un mois après, même pas un mois après, tu as la CAN au Cameroun qui s'enchaîne. Ouais. Est-ce que ces joueurs-là qui ont fait les matchs éliminatoires de Coupe du Monde, ils vont faire une Coupe arabe, ils vont enchaîner avec une CAN, est-ce qu'ils vont être au top? Moi, je doute, je ne sais pas. Hein.
Après c'est une arme à double tranchant.
Ouais.
Pour moi, c'est une arme à double tranchant. Pourquoi? Parce que soit ils peuvent être au top, soit ils peuvent arriver rincés.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Et aussi, je voudrais ajouter par rapport à la Coupe arabe de Mohamed.
Oui.
Moi, personnellement, j'ai rien contre Bouguerin, mais à un certain moment, il y a deux joueurs qui auraient mérité d'y être dans la liste.
Oui.
C'est Malik Haslam, qui fait de très bons matchs avec son club,
et
Mohamed Benyetou, qu'on ne lui a jamais laissé sa chance en équipe nationale, alors que je pense que c'est un joueur qui aurait mérité au moins une chance en équipe nationale.
Ben, tu sais, moi j'ai regardé, il y a beaucoup de joueurs que Majid Bouguira a pris. Hein. Ce sont des joueurs qui étaient à la base des joueurs qui jouaient en Europe, qui sont partis jouer après au Moyen-Orient et que tu retrouves aujourd'hui dans l'équipe d'Algérie après. Voilà, tout simplement.
Voilà. Mais après maintenant par rapport au jeu, moi je pense que Ben Majid dès le départ, comme je vous ai dit, il a fait une erreur sur la position. Il n'aurait jamais dû jouer avec deux avant.
Oui, bien sûr. Ouais. Très bien. Merci, l'arbitre, pour ton point de vue.
Mais moi, voilà.
De rien, puis merci à vous de m'avoir invité. Ça n'avait pas été trop long.
Non, très bien. Merci beaucoup.
Plaisir. Mohamed, il y a quand même une chose qu'il faut bien expliquer. L'équipe nationale, ce n'est pas un laboratoire. Il faut bien comprendre ça. On ne peut pas injecter des garçons à un an d'une Coupe du Monde avec des garçons qui ont joué, mis à part peut-être des garçons qui explosent dans leur club ou qui vraiment qui montrent qu'ils ont le niveau dessus, mais sinon le groupe il est fait, il est en place. Après tu peux voir ce qui a à faire à l'intérieur, mais tu vas pas aller chercher des joueurs qui n'ont pas ni d'expérience, qui n'ont jamais mis les pieds en Afrique, ils savent même pas ce que c'est que l'Afrique. Ils vont se faire, alors surtout Cameroun, ils vont se faire découper en 8. Donc là oui. Après les gens ils sont ici à Paris, ils parlent de l'Afrique comme s'ils ils y vivaient. Elle va mettre les pieds là-bas, tu vas voir ce que c'est. Tu vas comprendre. Tu vas voir ce que c'est. Moi, j'ai vu Cameroun, là, Cameroun Côte d'Ivoire.
Ah oui.
Là, j'ai vu là, quand j'ai regardé le truc, punaise, t'as vu. Rien le match. Mets ton équipe nationale.
Mais les deux équipes avaient largement leur place dans ces barrages.
Hein. Oui. Bah, bien sûr. Bah,
franchement, c'est les deux clair, équipes. Bah, oui. Mais alors, Mohamed, t'as posé une question, t'as parlé des joueurs en manque de rythme, etc. Moi, j'aimerais poser la question à l'inverse. Dans cette équipe nationale, telle qu'on l'a vue contre le Burkina Faso, c'est qui les joueurs aujourd'hui? Quels sont les joueurs où tu peux te dire, ces joueurs-là, je peux m'appuyer dessus, ce sont des valeurs sûres, et qui ont du rythme, qui jouent à peu près, qui sont des joueurs qui apportent une plus-value à cette équipe nationale. Moi, j'en vois pas plus de 4-5. Hein.
Oui.
Ça s'arrête là. Hein.
C'est vrai. Ben Sebaini, Benacer,
Mahrez, Slimani.
Slimani, ouais.
C'est
compliqué, ouais. Bien vu, ouais.
Les valeurs sûres, elles sont là.
Quand tu as construit une équipe qui a été championne d'Afrique, ouais, tu peux pas toucher à l'équipe parce que tu vas te faire descendre par tout le monde.
Non, mais au bout, deux ans après oui, l'équipe elle peut évoluer légèrement.
Oui, tout à fait. Mais on n'a pas vu parce que ces joueurs-là, c'est Boulaya, c'est Ben Ahmad, quand je veux dire offensivement, c'est.
Ounes,
ouais. On n'a pas vu. Et à chaque fois qu'il est entré, il a fait le.
Ah oui.
Il a fait le ah oui. Ça m'embête. Hein. Ça m'embête réellement. Après, dans les choix des mecs et des locaux qui sont rentrés à des postes défensifs, là, comme il y a eu l'avant-dernier match, là, je pose question encore. Moi, j'ai pas toute la vue de l'équipe, hein, parce que je les connais pas, certains, on les voit pas. Jamel, il a une ouverture plus importante sur ces choix-là. Ouais. Mais attention, c'est pas ce qui se passe là. Moi, je suis effaré de voir où on en est arrivé là aujourd'hui. Hein. Pour moi, c'est un cri d'alarme. Hein. C'est plus un match. C'est pas révélateur. Si tu fais de la révélation, c'est bien avant tu l'as fait. C'est pas quand les choses sont passées qu'on dit ah ouais, t'as vu, j'ai vu arriver ça gros comme un camion là, depuis un mois et demi, et j'ai vu les conférences de presse,
ouais,
et j'ai écouté les discours. Ah, j'ai dit non, là on y est là. Et là tu y es. Et t'as vu chez nous, ça va vite, hein. T'as vu, t'es là, comme demain ils vont te brûler. Maintenant j'ai dit, le tirage va être
déterminant.
Ça va être pire qu'un barrage, celui-là. Le tirage, hein. Je parle même pas du match. Je parle du tirage.
On peut rappeler rapidement les adversaires potentiels. T'as le Cameroun, t'as le Mali, tu as la République démocratique du Congo qui pour l'instant est encore qualifiée. On verra ce que la suite. Le Ghana et l'Égypte. C'est ça qu'adversaire potentiel.
Ghana, Égypte, on peut s'en sortir. Le reste, faut pas toucher. Même République démocratique du Congo, mais bon, je préfère dire Ghana, Égypte. Si on met Ghana, je pense qu'on a. Là, c'est encore un autre football, tu vois.
Ouais, oui.
Mais même à des postes comme ils ont là, ils
peuvent nous faire mal.
Oui, ils peuvent faire mal. Ouais.
Et Mali Cameroun, pour toi, Nasser, c'est à éviter.
Ouais,
c'est bon, on a compris.
Mais après, on va parler aux gens parce qu'ils écoutent et ils ont besoin de savoir. Mais après, il n'y a pas de tirage au sort, mon ami. Ça dépend de la personne, des personnes qui sont en place et qui dirigent ton football. Parce qu'il y a des coulisses qui s'appellent les coulisses. Et ben là-bas, tu règles ton problème. Si tu le règles pas, et ben tu vas te taper le Cameroun.
Ouais, on est mort. Hein, et ça risque d'être très, très compliqué.
Ouais, ben,
c'est un euphémisme.
Allez, on repart du côté. Je pense que je ne prendrai pas tous les appels parce que le standard est encore plein. Malheureusement, ben oui, quand vous appelez comme ça, là, en fin d'émission, il y a ce qu'on Allô appelle. Oui, bonsoir.
Bonsoir, c'est Karim.
Bonsoir, Karim. Merci. Voilà. On t'écoute, ouais. Karim de Lyon.
Merci beaucoup. Ouais. Donc, moi, on est tous d'accord pour dire qu'en ce moment, l'équipe d'Algérie, elle nous fait peur.
Ouais.
Elle nous fait vraiment peur. Hein. Et c'est vrai que tout le monde l'a vu. Et on a vu une défense où on s'est dit, je ne sais pas qui c'est qu'on peut garder dans cette défense. Je ne sais vraiment pas. Mais je pense que la CAN arrive. Comme il dit Nasser, il ne faut pas trop s'embouler. Mais je pense quand même qu'il faut essayer un ou deux joueurs, comme l'a dit l'auditeur, comme tout bas.
Oui.
Et voir ce qu'on peut faire parce que.
Non, mais il est dans le groupe. Karim, il est dans le groupe élargi tout bas. Ça fait longtemps qu'il est convoqué.
Oui, ça fait longtemps. Ouais.
Ouais, il est dans le groupe. Ouais. Voilà, il est dans le groupe de joueurs qui est prévu. Ouais, ça, il n'y a pas de souci pour ça.
Touriste. Voilà, moi, je poursuivrai en disant oui, un Brahimi, peut-être qu'il ne serait pas de pro.
Oh, punaise.
Un joueur technique qui peut faire mal.
Brahimi. Pour conserver le ballon, oui.
Oui,
Brahimi conserve le ballon.
Ah, c'est une rampe de lancement, c'est un super joueur.
Il a de la conservation de ballon. Il peut amener des fautes sur lui parce qu'il est très technique.
Création.
C'est pas un joueur que vous. Trop avec sa tête, on peut dire, mais il est tellement petit qu'il fait mal. Il fait mal. Donc, je me dis qu'à défaut d'avoir des grands gabarits, si on lance des joueurs techniques, comme Adam Mounas, tout ça, on peut-être les perturber parce que, automatiquement, quand vous avez des joueurs vifs comme ça, il peut y avoir des fautes, il peut y avoir de la peur chez l'adversaire qui n'osera pas trop s'avancer. Donc, je dis qu'on peut les contrarier d'une façon. Après, si on n'a pas les défenseurs qu'il faut, pour moi, eh ben, il faut simplement défendre en bloc toute l'équipe. Il faut défendre. Il faut que tout le monde soit dans la fond, les attaquants, les milieux et tout.
La solidarité du groupe, c'est
voilà,
ça.
Voilà, exactement. Je pense qu'à défaut d'avoir des joueurs, on peut les perturber dans la détermination et dans la façon de travailler en groupe et de vraiment, vraiment se donner à fond surtout sur le match aller.
Bah oui, parce qu'aujourd'hui même le match retour n'est pas une garantie chez soi. Hein.
Bien sûr.
Et Brahim, je termine simplement sur une chose en disant que pourquoi on en est là aujourd'hui et tout. Il faut dire que bon, le Burkina Faso a fait 1-1 contre le Niger. Le Niger a réussi à mettre en échec.
Oui.
Et ce qui prouve que on est faible parce que c'est cette équipe qui a pas réussi à battre le Niger. Elle est venue s'imposer pratiquement chez nous. Donc, je me dis, en plus, elle a installé un doute vis-à-vis de l'équipe. Ça veut dire que maintenant, les autres équipes, on leur fait pas peur.
C'est ça, Karim, le doute, pour moi, il est venu au Mali. Hein. Il est venu du match amical du Mali, hein. De la première mi-temps. Hein. Moi, je t'ai dit, là, je sais pas si vous avez les moyens de revisionner le match, mais reprenez ce match-là, reprenez la première mi-temps et vous allez voir. Hein. Ah, tu vas voir ce que c'est qu'une déferlante. Hein.
Oui, en tout cas, le doute il est là et maintenant les équipes elles
viennent. Voilà, c'est ça.
Elles n'ont pas d'appréhension.
Tout à fait, exactement.
Je pense qu'il faut inverser ça. On sait que la Coupe d'Afrique, ce sera pas l'objectif à atteindre pour l'équipe d'Algérie. Pour moi, ce sera vraiment la Coupe du Monde. C'est le moment d'avoir des joueurs déterminés et de poser un tout petit peu quelques joueurs.
Très bien, merci Karim pour ton intervention.
Merci beaucoup.
Merci, bonne soirée, au revoir. Je vais essayer de prendre un dernier appel parce que là, malheureusement, je ne peux pas prendre tout le monde, comme je vous l'ai dit. C'est très serré au niveau de timing. Bonsoir.
Oui, allô, bonsoir, salam alaikum.
Ouais. Alaikum salam, Abdelkrim.
Ouais, tu reconnais ma voix, moi.
Ouais. Facile, hein. Ouais, ouais.
Merci de m'avoir pris parce que c'est vrai que c'est là.
Non, mais là, je t'avoue que là, c'est le dernier appel que je prends parce que j'ai 3 minutes devant moi.
C'est vrai. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Eh ben, moi, ce que je voudrais dire, c'est que par rapport au barrage, je vais être clair et net, franchement. Bon, déjà, pour le match du Burkina Faso, j'ai lu vite fait dans certains articles comme quoi, pas tous, mais certains joueurs étaient tétanisés par l'enjeu parce qu'il fallait à tout prix pas perdre. Donc, ce qui explique un peu qu'ils ont fait un non-match.
Eh bien, faut arrêter avec ça. Tu joues à domicile chez toi, on fait nul, on est qualifié. Mais bon, de là, tétanisé. Oui, t'es tétanisé si tu veux au Burkina Faso là-bas, oui.
Nasser, comme vous avez dit, alors, il y a en fait, c'est comme il a dit aussi Sofiane aussi, je passe le bonjour à Sofiane aussi au passage. C'est que, en fait, là, actuellement, dans cette équipe nationale, comme vous avez cité, vous avez quoi? La moitié de l'effectif qui est indispensable. Youssef Attal, il est pas là, il y a personne pour le remplacer. Jamel, il est parti me faire jouer le local, comment il s'appelle, Hussein Ben Ayada, à sa place. Ouais. Une vraie chaîne. Ensuite, tu prends non, mais c'est vrai. Ensuite, tu prends sur la défense centrale, comme vous avez dit, le joueur de Villarreal, Mandy, qui. Ça va qu'il joue pas parce que sur le pénalty qu'a obtenu Burkina Faso, je pense que faut attention à l'action avant Bellamy et FIFA.
Oui, tous les deux étaient en retard.
Mandy a fait quand même un tacle d'amateur. Oh, ils se jettent comme un bourrin sur le joueur. Ils se disent pas, attends, je vais, c'est la surface de réparation, je vais, même si je le chapelle, l'arbitre va se pénaliser, tu vois. Voilà. Donc, devant, on a Boudjener qui, en ce moment, avec l'équipe nationale, il est en panne.
Ouais.
Voilà, donc, et pour faire vite sur, moi, je pense que, je vais vous dire une chose. Ça sert à rien de dire, de parler des adversaires de l'Algérie en disant le Mali, je sais pas qui, l'Égypte, le Cameroun, patati patata. Il faut se mettre une chose, c'est que avant ces barrages-là, on aura déjà une CAN. Et c'est les équipes bas, les 10 équipes bas, non, les 9, parce que la République du Congo est la seule équipe qui n'est pas qualifiée à la CAN, au passage. C'est la seule équipe qui est qualifiée au barrage par la CAN. Donc les 9 barragistes, tout dépend ce qu'elles vont faire à la CAN. Parce que celles qui feront une mauvaise CAN, elles vont attaquer les barrages dans le doute. Et certaines, peut-être, vont virer leur entraîneur en cas de mauvais parcours à la CAN.
Ah, ben on connaît l'Afrique qui font ça, hein. Ouais.
Il y a ça déjà de 1. Ensuite, il y aura. Est-ce qu'on va disposer de, est-ce que toutes les équipes vont disposer de tous leurs titulaires le jour J des barrages?
Oui, ça, d'ici là, d'ici le mois de mars, il y aura de.
Pour moi, tu peux pas donner de. En fait, sur le papier, il y a des favoris, mais le jour J, comment ça va se passer leur CAN? Est-ce qu'ils vont jouer avec tous leurs titulaires? Parce que certains, ils ont peut-être des blessés. Ils ont. Voilà. Je suis juste au passage pour dire, parce que vous ne devez pas savoir. Je prends par exemple nos voisins tunisiens, ils ont.
Non mais Karim, sauf que là, on va être obligé de.
Suspendu pour le match aller.
Ouais, bon. Merci. Voilà, merci pour cet éclairage. Parce que là.
Juste une dernière chose, Mohamed. Oui. Une dernière chose, juste pour dire qu'en gros, en fait, c'est bien beau de dire que la tête de série, elle reçoit au retour, mais comme je disais la dernière fois, franchement, si tu perds le match aller, même 1-0, le match retour à la maison ne sera pas forcément un avantage.
Très bien,
il faut
merci.
Éviter la défaite à l'extérieur.
Ouais, bien sûr, merci. L'avantage. Bonne soirée, Abdelkrim.
Salam alaikum. Au revoir.
Voilà, donc on arrive à la fin de cette émission. Alors, juste, j'envoie cette petite pause de minutes. Je reviens quand même au plateau pour conclure avec le coach et avec Sofiane.